Est-il possible de faire les championnats du monde d'Ironman tout en préparant un doctorat ou en créant une start-up ? Réponse avec mon invité du jour. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et cette semaine, nous allons parler de domaines qui semblent un petit peu inconciliables. Que je dise triathlon, thèse de doctorat, création d'une entreprise, toutes ces activités sont réputées pour être énergivores et demander beaucoup de temps. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut aller au bout de ses rêves sportifs tout en terminant sa thèse puis en créant son entreprise. Il y a quelques semaines, Aurélien était dans l'Utah pour participer au championnat du monde Half Ironman en catégorie amateur. Avouez quand même que ça claque. Mais comment fait-on pour se qualifier et participer à une telle course? Quel est le processus de qualification? Quel est l'entraînement? À quel moment Aurélien s'est-il dit qu'il allait avoir cet objectif de participer à une telle course? Et comment s'est-il dit que c'était possible? Comment s'est-il organisé pour finir sa thèse, puis créer son entreprise tout en s'entraînant? Bien entendu, nous avons aussi discuté du déroulement de cette course, comment elle s'est passée, et vous allez voir que ça n'a pas toujours été simple. Et puis bien sûr, ses projets futurs. Nous avons pris le temps de discuter de tous ces sujets en longueur, et je pense qu'au moment où nous regardons un peu tous nos plannings pour les mois qui viennent, cela nous montre que l'on peut rêver à de grandes choses, et se donner le temps et les moyens de les atteindre. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Bah très bien, merci. Et toi ?
Ça va très bien, écoute. Moi, du moment qu'on parle un peu de sport et tout, ça me va très très bien. Hier, j'ai enregistré un épisode avec quelqu'un qui avait fait 30 km de natation. Et je disais, mais ça fait long, etc. et tout. Comment t'as fait ça ? Et puis après, je me suis dit, bah, le prochain invité, il nage moins. Mais en fait, je me suis dit, bon, il nage un peu quand même, hein, pour arriver à faire ce que t'as fait. Faut nager un petit peu quand même.
Ouais, c'est comme 15 fois moins du coup, parce qu'on a 2 km de natation. Mais c'est vrai qu'après, on enchaîne nous avec vélo, course à pied. Donc voilà, ça fait 3 disciplines où il faut s'entraîner. Donc pas évident non plus. Mais 30 km en natte, c'est quand même très très impressionnant.
Ouais, ouais, bon, après, c'était en 4 jours. Alors je veux pas diminuer son truc, hein, mais la plus longue étape faisait 10 dans son histoire. Mais c'est vrai quand même que dans cette histoire-là, moi. Je me dis, bon, la natation, c'est pas mon truc. Et à chaque fois que je reçois un triathlète, parce que tu es triathlète, j'ai toujours cette même question en disant, mais est-ce que la natation, c'est ton domaine au départ? Est-ce que tu y es venu naturellement? Est-ce qu'il a fallu beaucoup travailler? Est-ce que tu es un nageur de départ ou quoi? C'est mon obsession. Une fois que mon obsession sera passée, on parlera du reste. Mais franchement, pour moi, dans le triathlon, c'est la partie qui me semble la plus compliquée.
Et c'est exactement la partie la plus compliquée. C'est la première question que je pose aussi aux gens qui arrivent, par exemple, dans mon club de triathlon, qui démarrent le triathlon. Première question, c'est est-ce que tu cours, nages un peu, mais surtout, non, est-ce que tu cours, tu fais du vélo un peu, mais surtout, est-ce que tu nages, est-ce que tu sais nager, est-ce que tu as déjà nagé? Parce que ceux qui viennent de la natation, finalement, c'est un peu plus facile, entre guillemets, de se mettre au triathlon parce que c'est toute une histoire de technique de nage et tout. Et quand on commence à la trentaine, donc c'est à peu près ça, les gens qui arrivent, qui démarrent le triathlon en club, actuellement, c'est à 25-30 ans. La moyenne d'âge, et du coup, s'ils viennent pas à la natation, ça va directement être, en gros, le sport qui va être le plus compliqué à mettre en place, quoi. Donc, faut tout apprendre à nager. Donc, plus on monte en âge, plus cet apprentissage est complet.
Mais, et c'est vrai que c'est un truc, c'est la natation, c'est de la technique. En fait, il faut trouver la glisse, faut trouver la coulée, faut arriver à glisser, faut pas s'épuiser en essayant de battre des jambes trop vite. Enfin, c'est tout un tas de trucs comme ça, en fait. C'est compliqué à acquérir. Tu venais de la natation, toi, au départ, ou pas?
Et exactement, ouais. Moi, je suis nageur de base. Donc, j'avais nagé dans les catégories Quand j'étais en école primaire, puis après en benjamin, minime. Donc, j'étais plutôt brasseur, d'ailleurs. Et c'est que sur le tard, du coup, moi, j'ai 32 ans, là, du coup, actuellement. C'était au lycée que je me suis mis au triathlon. Donc, à l'époque, enfin, c'était très jeune pour commencer le triathlon à l'époque. Maintenant, on voit dès le collège, il y a énormément de gens qui commencent le triathlon. Mais à l'époque, j'étais parmi les premiers, je pense. Il y a très peu de monde dans mes catégories d'âge et tout ça. Et c'est vrai que la natation m'a beaucoup aidé. Franchement, d'avoir été nageur avant, ça m'a beaucoup aidé parce que je n'avais pas tout cet apprentissage-là à faire. Je pense que ça développe des capacités cardiovasculaires aussi qui aident directement pour les sports d'endurance tels que le vélo, la course à pied. Donc, après la natation, enfin, je ne sais pas si tant qu'à faire, je raconte un peu. Une fois que, ouais, une fois que du coup, je commençais à un peu moins performer dans mes catégories en natation, je regardais le Tour de France l'été et je me suis dit, tiens, le vélo, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Et du coup, je me suis acheté un vélo, j'ai commencé le vélo, je pense que c'était début du lycée. Je suis venu à la course à pied un peu plus tard, finalement. Fin du lycée, quoi.
Ouais, donc en fait, t'as quand même toujours été sportif.
Du coup, oui, je dirais quand même, ouais. Du coup, oui, j'ai toujours nagé. En fait, depuis mes 5 ans, j'ai toujours nagé. Bon, j'ai eu une petite période de break pendant mes études où j'ai pas trop fait de sport. Mais sinon, oui, entre 5 ans et la fin lycée, je nageais beaucoup. Nageais beaucoup, puis vélo, course à pied derrière.
Alors, on l'a pas dit, mais si je t'invitais, c'est parce que t'étais où là ces dernières. Enfin, c'était il y a combien de temps d'ailleurs?
C'était il y a un mois. C'était il y a un mois, quasi tout. Non, maintenant, un mois et une semaine même. Le temps passe vite.
Ouais, parce
Du
qu'on
coup,
enregistre ça le 9 décembre, donc il y a un mois et une semaine, t'étais.
j'étais en Utah, à Saint-Georges, précisément, donc aux États-Unis, pour les championnats du monde Ironman 73.
Et là, d'un coup, ça claque.
Bah, du coup, oui, c'était une super expérience. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience. Beaucoup, beaucoup à dire en fait sur cet événement, beaucoup à dire sur la préparation, parce qu'au final, l'événement, c'est un peu la concrétisation de plusieurs années d'entraînement. Donc là, on parlait tout à l'heure du collège, lycée. Je pense que même si je parlais aussi d'un break pendant mes études supérieures, malgré ce break, je pense que tous les bénéfices que j'avais acquis en période collège, lycée, je les ai retrouvés quand même, même en reprenant le sport vers 25-30 ans. Et du coup, voilà, je m'étais donné comme challenge de retourner vers la performance. Je pensais avoir mis ça de côté, mais finalement, j'ai repris le triathlon. Au début, je voulais juste faire ça tranquillement pour reprendre un peu le sport. Et finalement, on se reprend vite au jeu, quoi. Du coup, voilà, ça a débouché sur ces championnats.
La question
Ouais.
que je me pose, c'est à quel moment tu te dis je vais essayer, parce que est-ce que tu t'es dit à un moment je vais faire un championnat du monde, ou est-ce que c'est un objectif en soi, ou est-ce que finalement c'est le résultat de performance que tu as eu? Bien sûr, pour arriver au, j'imagine que pour se qualifier au championnat du monde, il faut faire certains résultats, mais je veux dire, est-ce
Oui.
que c'était la cerise sur le gâteau, ou est-ce que c'était le gâteau complet de tout le truc que tu visais au départ?
Bah, c'est le gâteau complet de tout ce que je visais au départ. Parce que je suis même pas sûr que je visais les championnats du monde quand j'ai bah, même tel que je l'ai dit, je venais de le dire, je pensais pas du tout aux championnats du monde quand j'ai repris le sport il y a 6 ans, 7 ans. Loin de là, parce que je pensais vraiment plus pouvoir performer. C'est vraiment au fur et à mesure, donc on se donne un objectif. Au début, bah, moi, c'était juste de refaire un triathlon, donc j'ai repris l'entraînement pour ça. Puis après, il se trouve qu'on performe un peu sur ce triathlon ou cette course. C'est exactement pareil en course à pied, parce que je pense que dans l'auditoire, il y a beaucoup de coureurs à pied. Voilà, on se reprend au jeu, quoi. On fait l'événement, enfin, on fait la course. Et là, on se dit, bah, voilà, il y a ça qui n'est pas allé, ça, j'ai peut-être raté, je pense que je peux mieux faire. Dans tous les cas, je retourne à l'entraînement, donc pour me motiver à aller à l'entraînement tous les jours, il faut que je me redonne un objectif. Et du coup, on redéfinit souvent un objectif qui va être supérieur, le next step. Du coup, voilà, on va vers cette course, on se réentraîne plus dur, on fait probablement un meilleur temps, une meilleure performance. Bon, après, ça arrive de bâcher des courses aussi, mais voilà, dans l'idée, c'est ça, et on repart au combat. Et petit à petit, en fait, on augmente le niveau qu'on va avoir, puis le niveau vers lequel on veut aller. Et moi, ça a débouché sur, au bout de 7 ans, bah, plutôt au bout de 4-5 ans, je dirais. Je me suis dit, bah, en fait, là, j'ai acquis un niveau. Je pense que c'est jouable de me qualifier au championnat du monde. Donc voilà, je me suis inscrit sur une course qualificative. Et voilà, je me suis dit, je me donne un an et demi pour m'entraîner dur. Je me suis entraîné dur. Je me suis qualifié. Et après, c'était reparti. Parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, bon, c'est cool, dans tous les cas, je ne vais pas faire de podium ou je fais du monde. Enfin, j'ai trop de choses dans mon emploi du temps pour pouvoir viser ce genre de choses. Mais finalement, peu importe à quel niveau, on se fixe l'objectif de faire le mieux possible. Et du coup, on retourne à l'entraînement et on s'entraîne le plus dur possible. C'est ce que j'ai fait. Et pour faire la meilleure place possible, quoi, tout simplement.
Et quand même, à un moment donné, tu te dis, je vise d'aller au championnat du monde. Donc, bah, déjà, il faut dire, faut avoir déjà une confiance en soi pour se dire, je suis capable de le faire. Ou tu te dis, bon.
Bah, ça, je pense que ça vient avec les performances aussi. Dans le sens où j'avais fait des triathlons, des courses, même tout simple. Enfin, les sports de longue distance qui a de super, c'est qu'à l'entraînement, enfin, même dans beaucoup de sports, en fait, c'est qu'à l'entraînement, on a déjà un bon aperçu de ce qu'on peut valoir. Même si on concrétise pas toujours ça pendant les courses, on sait à peu près combien on vaut aux 10 km, par exemple, en course à pied. On est capable, dans une fourchette de 30 secondes, peut-être une minute, de dire, je vois à peu près ça, quoi, suivant les entraînements qu'on a fait. Donc voilà. Après, le triathlon, même longue distance, c'est un peu similaire. On sait à peu près ce qu'on est capable de mettre en watts, sur le vélo, ce qu'on est capable de courir au niveau allure, et pareil, ce qu'on est capable de nager. Même si au final, la partie natation, c'était la plus tricky, parce qu'on a l'habitude d'avoir nos temps en piscine, et le fait de nager à l'extérieur, ça biaise souvent un peu. Mais voilà, ça n'a pas varié non plus énormément, quoi. Et du coup, tout ça mis bout à bout, si je me suis dit que je pouvais me qualifier, c'est parce que j'avais déjà d'abord vérifié que voilà, c'était accessible, que c'était pas non plus complètement à côté, quoi.
Alors, il y a quand même un truc auquel je pense, parce que comme tu parles de natation, eau libre, etc., les championnats du monde étaient dans l'Utah, c'est ça,
hein, c'est ça, exactement. Ouais.
Et il faisait froid le matin, non?
Ouais. Très, très, extrêmement froid. J'en ai d'ailleurs beaucoup souffert. Bon, je pense que tu es au courant, du coup, vu la question.
Alors, je ne suis pas au courant pour toi, mais je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai fait un épisode de Sport Nutrition avec Adrien Leroux, et qui était aussi à cette course. Et donc, j'ai suivi en même temps et j'ai vu. Parce que, en fait, pour tout dire, je suis sur Instagram, je regardais les belles vacances, le désert, la chaleur, etc. Et puis, tout d'un coup, tous ceux qui passent à cette course disent le matin, mais ça caille, on n'avait pas, est-ce qu'il fallait les bonnes combis, les trucs comme ça. Alors, comment t'as vécu, toi, cette période de froid-là?
C'est exactement ce qui s'est passé. Ben, c'était même pour ma part pire parce que je l'avais plutôt vu dans le sens inverse. Les températures dans l'Utah, ça peut monter jusqu'à 30-35. Donc, tout l'été à Bordeaux, il a fait comme partout en France, une grosse canicule. Donc, ça pouvait monter à 40 degrés, en tout cas 37-38 sur beaucoup de journées. J'allais quand même m'entraîner vers 17h pour subir un peu la chaleur, pour me préparer parce que je me disais en Utah, il va potentiellement faire plus de 30 degrés et tout. Donc, j'étais encore plus surpris d'arriver là-bas. Et la semaine d'avant, je voyais les températures chuter. J'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je suis arrivé le jour J et effectivement, pas comme Adrien le disait, il faisait 3 degrés pour la course femme, 5 degrés pour la course homme. Du coup, on part dans une eau qui était à 15 degrés environ. C'est très froid. Enfin, c'est parce qu'on se dit 15 degrés dans l'air, mais c'est pas du tout pareil dans l'eau. Enfin, pour ceux qui ont déjà nagé peut-être un peu dans le nord de la France ou quoi, c'est un peu la température de la Manche, je pense. Et c'est très froid. J'ai souffert. J'ai fait une hypothermie, moi, pour la petite histoire. C'est pour ça que je pensais que tu savais ce qui s'était passé. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de l'eau. Donc, au bout de 1500 mètres, j'étais vraiment frigorifié, impossible de pousser sur les bras, compliqué de respirer. Je buvais la tasse beaucoup. Première fois que ça m'arrive. Et donc, voilà, s'il restait quelques centaines de mètres de plus, je pense que j'étais obligé d'appeler le bateau de secours. Mais par chance, j'ai réussi à sortir, quoi.
Voilà. C'est quand même bateau. C'est ballot. Pour un nageur, la partie qui est normalement, tu dis ta partie de départ, celle que tu fais depuis tant d'années et tant d'années, te dire que ça fait celle qui aurait pu te coûter la course, de pouvoir finir la course, c'est quand même vraiment. Parce que j'ai vu un reportage un jour, tu sais, sur le Northman, avec cette athlète, je sais plus comment il s'appelle, qui était inscrit, mais qui nageait pas très bien, quand en plus il s'est cassé je sais pas quoi, juste avant. Et qui savait qu'il déjà avait des problèmes en nageant et qui se fait éliminer sur la natation. Mais lui, il savait que c'était son point faible. Toi, c'est quand même un point qui est quand même fort chez toi. C'est quand même, ça aurait été dommage de payer ça, quoi.
Ouais, complètement. C'est sur une course très longue, c'est le seul des trois sports où je me dirais là, je peux pas abandonner sur ça. Sur en vélo, il peut y avoir la chute. Course à pied, ça arrive à la fin du très long, il peut se passer hypoglycémie, s'être mal hydraté, je veux dire. Il peut arriver pas mal de choses. En natation, normalement, ça dure une demi-heure. On a pris des gels juste avant. il peut pas se passer grand chose, quoi. Il faut juste nager jusqu'au bout. Mais là, cette fois-ci, première fois, ça a été compliqué.
C'est-à-dire quand même, en une demi-heure dans de l'eau froide, là, comme ça, tu as eu le temps de prendre un bon coup de froid, quoi.
Oui, ouais. Mais mettre déjà au bout de... honnêtement, au bout de 400 mètres, au bout du coup de 6 minutes, hein, même pas, je sentais déjà que c'était qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'était pas tout à fait normal. Après, il faut savoir qu'on attend aussi dans des sas avant d'entrer dans l'eau. Donc, contrairement à beaucoup de triathlons où on peut aller nager 15 minutes et on sort de l'eau 5 minutes avant le départ. Donc, ça nous a permis de nous échauffer et bim, il y a le départ, on y va. Sur les championnats du monde, c'était complètement différent. On attend une demi-heure dans des sas, on ne peut pas bouger parce qu'on est un peu les uns contre les autres. On est pieds nus, le sol était gelé. Et voilà, on attend, on se refroidit. Et voilà, quand le coup de départ sonne, ben, on y va. Et là, enfin, on était déjà un peu froid avant de rentrer dans l'eau et l'eau a fait le reste, quoi.
Ouais, là, tu mets un orteil dans l'eau, tu dis « Ouh, ça gèle, ouais. Cette histoire
!» C'était exactement ça. Exactement la première réflexion que je me suis faite une fois rentré dans l'eau. « Waouh, il fait vraiment froid, en fait. »
Et là, la deuxième pensée, c'est de dire « Oh, punaise, ils auraient pu le laisser à Hawaï, quand même. »
C'est ça, ouais, exactement. Ouais, Hawaï, ils se plaignent d'autres choses après sur la course avec l'humidité, la chaleur et tout, que je peux comprendre aussi complètement. Ah, c'est pas évident, mais ça rajoute quelque part un peu de challenge dans ces courses, surtout des grosses courses de championnat, ce qui fait le charme de Hawaï d'ailleurs, avec beaucoup, c'est pourquoi beaucoup de gens veulent y aller. C'est un championnat du monde, certes, mais rien que d'aller au bout de la course, c'est déjà quelque part un exploit en soi. Je crois qu'à Hawaï, c'est plus de 20% d'abandon, donc, dû à la chaleur et l'humidité.
Ouais.
Donc voilà, c'est comme le Norseman dont tu parlais aussi tout à l'heure, c'est les conditions qui viennent s'ajouter à une course déjà dure, et là, ça donne quelque chose un peu d'épique, quoi.
Ouais, alors c'est une parenthèse, mais ah ouais, j'étais assez surpris quand même de voir que les temps de finisher sont assez larges pour un championnat du monde. C'est pas, t'as pas des barrières horaires qui sont très courtes ou quoi que ce soit. Je sais pas si là c'était pareil ou t'avais un temps de sortie de l'eau parce qu'on dit bon et ça, les mecs qui concourent pour le championnat du monde, ils nagent tous comme super vite. Tu aurais pu te faire sortir sur une histoire de temps, tu sais, de nager trop lentement.
Alors, c'est possible. Donc il y a bien des barrières temps. Après, je sais aussi qu'il y a énormément de groupes d'âge. Donc, moi, je concourais, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, je concourais en amateur. Donc, c'est par catégorie d'âge. Et les catégories d'âge montent jusqu'à plus de 90 ans, si je ne dis pas de bêtises, au moins plus de 80 ans, ça, c'est sûr. Et du coup, je pense, enfin, après, je n'ai pas vérifié sur les classements, mais normalement, ce n'est pas les gens de nos catégories vers 30, 34, 35, 39 qui ont le plus de soucis à respecter les barrières horaires. Mais ils en mettent, oui, effectivement, même en championnat.
Ouais, alors je sais pas que le... Tiens, en même temps, quand on discute, je vais regarder un peu par curiosité ce qu'ont fait les anciens. Tu sais, moi j'aime bien les anciens parce que sur ce podcast, notre ambition c'est de devenir des vieillards galopants. Alors si on peut faire des vieillards qui galopent, qui nagent et qui pédalent et qu'on peut se qualifier pour un championnat du monde comme ça, bon, moi je leur demanderais juste que si un jour j'y arrive, ils mettent de l'eau chaude, hein, parce que moi je ne supporte pas l'eau froide. Je fais des épisodes sur les adeptes de Wim Hof, mais je ne supporte pas l'eau froide. Donc ça c'est le truc comme ça, mais je pense que c'est un entraînement. C'est juste que c'est vrai que tu t'étais pas préparé à avoir de l'eau froide comme ça, quoi. Enfin, c'est un peu la surprise du
jour J.
Du jour J, quoi.
Ouais. Complètement. Ouais. J'ai toute ma prépa, je l'ai fait en piscine déjà. Ça c'était déjà, c'est un peu une erreur de ma part. Déjà, normalement, il faudrait que je nage au moins une fois par semaine en eau libre parce que les sensations sont quand même assez différentes. Il y a la combinaison, donc pas le même angle au niveau de la tête pour respirer, les bras, peut-être pas la même amplitude et tout ça. Donc ça, c'était déjà quelque part un peu une erreur. Mais voilà. Après, l'eau froide, dans tous les cas, à aucun moment, je me serais dit, l'eau va être vraiment froide. C'était en Utah, dans le désert, aux États-Unis, en octobre. C'était encore en décembre. Peut-être que j'aurais repensé, mais là, on a une petite erreur.
Bah maintenant tu le sais, mais c'est drôle parce que d'habitude, je sais que dans ceux qui font du triathlon et notamment ceux qui nagent pas très bien, ils sont pressés de voir la température de l'eau pour savoir s'ils ont le droit de mettre la combi, pas mettre la combi, parce que il y a ces règles là et tout. Et je sais que j'avais vu parce que sur certains triathlons, sur certains Ironman et tout, certains dire ah là là, ils sont en train de regarder la température près, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le droit de mettre la combi. Il y en a qui prient pour qu'il y ait un petit degré qui soit en moins pour qu'ils puissent mettre la combi, etc. Bon, là dans ce cas-là, tu aurais peut-être préféré qu'il y ait quelques degrés en plus, faut le dire.
Ouais, c'est ça.
On serait
quitte
mieux,
à nager sans combi. Et c'est ça, ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y a toujours. Donc, cette combi, cette histoire de degrés et de combinaison, c'est assez important parce que moins on est bon en natation, plus on va être avantagé par la combinaison. Du coup, c'est pour ça que, comme tu le dis, beaucoup prient pour que Hierro ait la combinaison. Ce sont ceux qui sont moins à l'aise dans l'eau aussi. Quoi. Donc, c'est pour perdre le moins de temps possible par rapport aux gens devant eux. Quoi.
Tu arrives à sortir de l'eau quand même. Donc, ça, c'est un bon, c'est un bon point.
Ça, c'est première étape.
Ensuite, le vélo.
Ça ne s'est pas arrêté là, ouais. Non, d'abord, il y a la transition. Ça, j'en ai pas parlé, mais une fois qu'on est frigorifié pour mettre... du coup, on avait prévu des gants, des manchons, des vestes, les chaussettes et tout ça. Mais quand on a les doigts complètement gelés, c'était aussi une horreur pour réussir à enfiler tout ça. J'ai passé 5 minutes dans l'air de transition contre 1 minute 30 dans temps normal ou 2 minutes peut-être. Donc ouais, ça aussi c'était compliqué, heureusement, parce qu'il faut retirer la combinaison. Là, l'organisation a mis en place, c'était le premier triathlon sans lequel je voyais ça, c'est qu'on s'allongeait par terre et c'est les personnes qui nous retiraient la combinaison pour nous. Et
ça, vous déballe comme un formidable en fait.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Du coup, je voyais les gens devant moi parce que j'étais même pas prévenu qu'il y aurait ça et je voyais les gens devant moi s'allonger et voir le truc. Je dis waouh, ok. Et du coup, j'y suis allé quand même. Et franchement, heureusement que je l'ai fait avec l'aide de leur gars parce que tout seul, ça aurait été. J'aurais encore perdu beaucoup plus de temps. Quoi.
Et après avoir été aussi frigorifié, j'imagine qu'enchaîner sur du vélo où tu roules plein de balles, tu dois mettre un bon bout de temps pour te réchauffer quand même.
Ouais, moi, ça a été 1h15 à peu près. Et pendant 1h15, je grelottais. Ouais, il faisait toujours aussi froid. Enfin, là, on est en trifonction mouillé. Enfin, même j'ai mis une petite veste dessus, mais en fait, elle a vite été mouillée avec l'eau qui est restée sur moi. Hein. Du coup, je l'ai jetée quasi direct. Et j'ai mes manchons, mes gants, mes pareils qui étaient un peu humides. Et voilà, il faut faire avec ouais, une heure dans le froid. Ouais, c'était encore. Ouais, j'étais pas du tout à l'aise encore à ce moment-là. C'est vraiment au bout d'une heure et quart de course où ça commençait à aller mieux. Le soleil d'ailleurs montait, on sentait que la température extérieure montait. Moi, au bout d'un moment, on sèche aussi avec le vent, quoi, en roulant fort dans le vent. Donc voilà, au bout d'un moment, ça allait mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à réappuyer fort sur les pédales et voilà.
Et donc, tu étais enfin chaud quand tu es arrivé en course à pied, quoi.
C'est ça. En gros, c'est à peu près ce qui s'est passé. Ouais. Parce que du coup, ouais, ça allait un peu mieux sur la dernière partie vélo, mais c'était aussi la partie la plus compliquée. Donc, c'est pas là où je me disais, waouh, je suis vraiment bien. Parce qu'en fait, il y avait une énorme côte et puis suivi d'une énorme descente. Et du coup, forcément, dans les côtes, c'était dur. Il fallait appuyer sur les pédales et tout. Enfin, ça l'a fait, hein, mais c'est pas là où on se sent super fort parce que voilà, on subit d'efforts plus qu'autre chose. Après la grosse descente, je suis pas très à l'aise en descente. Donc voilà, je n'étais pas encore au top, mais après, une fois passé sur la course à pied, là, ça allait mieux. En plus, c'est mon domaine, finalement, même si j'étais nageur à la base, là où je performe le mieux, c'est la course à pied aujourd'hui. Donc, c'est aussi mon domaine, et là, on double beaucoup de gens, ça fait place de morale, quoi.
Ouais, c'est... tu regardes quand même un bon souvenir, globalement, de ta course, là.
Ouais, complètement. C'est avec le sourire, là, que je raconte la course et que je la raconte aux gens... C'est pas du tout passé comme prévu, pas du tout comme ce que j'imaginais, mais je regrette absolument rien. Ma prépa, comme je disais, là on parle beaucoup de la course, mais j'ai fait une prépa dont j'étais vraiment satisfait, j'étais allé au bout de ça, c'était déjà quelque chose d'acquis et voilà. Donc non, je garde beaucoup de positifs. Certes, j'aurais aimé faire forcément toujours un peu un meilleur classement. De toute façon, à la fin de chaque course, c'est la première chose qu'on dit, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait et on se projette direct sur la course d'après. Là, forcément, ça s'est passé aussi. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Certes, il y a des choses qui sont mal faites, qui ne sont pas passées en tout cas comme je le voulais. Mais je garde un souvenir extraordinaire. Quoi. Les paysages étaient fantastiques. Comme je disais, le froid, on s'en plaint, mais ça rendait la course épique. Je n'étais pas non plus tout seul à souffrir du froid. Donc, je voyais bien dans l'air de transition au début, je n'étais pas le seul à mettre 5 minutes, à mettre des gants. Tout le monde a grelotté, tout le monde était dans la bonne condition. Et c'est un triathlon qui se démarque des autres. En plus d'être des championnats du monde, c'est aussi les conditions et les paysages qu'il y a eu. Quoi.
On ne l'a pas dit, tu finis en combien de temps la course?
Je finis en 4h25 environ.
Et c'était ce que tu visais? Enfin, ouais. Tu imaginais quoi?
Si je visais quelque chose, c'est dur à dire en plus parce que chaque parcours va être différent. Qu'il y ait du dénivelé ou non en vélo, pareil en course à pied, ça peut impacter les temps fortement. Du coup, moi en vrai, honnêtement, je visais 4h15, 4h17 enfin, quelque chose en dessous les 4h20 en tout cas. Voilà, je pense qu'en natation, je pense que c'était faisable, puisqu'en natation, avec le froid, je pense que je perds bien 3-4 minutes en air de transition 1, pareil. Enfin, peut-être pas 3-4 minutes, mais je perds aussi beaucoup de temps. Donc, mis l'un dans l'autre, là, on arrive déjà un peu en dessous les 80. Et voilà, le vélo, j'aurais peut-être pu appuyer un peu plus. Donc, course à pied, j'ai fait ce que je pensais faire.
C'est un objectif sur lequel tu peux te dire, bon, je vais retenter l'an prochain, par exemple, l'an prochain ou dans quelques années, tu vois, tu l'envisages comment, là, la suite? Et après, on viendra sur la préparation, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi, mais tu t'envisages quoi, là, comme suite?
Du coup, c'est aussi la première question que mon coach m'a posée. Et direct, c'est un peu l'esprit revanchard. Donc, comme je disais, content, je garde un super souvenir, mais j'aurais aimé faire mieux. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les refaire un jour pour essayer de viser un meilleur classement. Je sais aussi qu'au départ, la course devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Et à cause du Covid, ça a été déplacé aux États-Unis. Et je sais que je voulais vraiment faire la course en Nouvelle-Zélande. À la base, j'ai choisi cette année-là pour tenter la qualification parce que c'était là-bas. C'est un pays qui me dirait bien. Donc voilà, c'est reporté à dans 2 ans, dans Nouvelle-Zélande. Donc, une première chose que je me suis dit, ce sera peut-être l'occasion de le refaire et pourquoi pas. Pourquoi pas? Je me voyais mal dès l'année prochaine repartir sur ce genre de prépa et refaire l'événement. C'est quand même quelque chose qui est coûteux sur plein de points de vue. Coûteux financièrement, coûteux en temps, coûteux en énergie. Ça engrange pas mal de fatigue et tout. Donc, j'ai une activité professionnelle qui me demande d'être bien au taquet aussi sur mon travail. Donc voilà, je pouvais pas repartir sur 15-20 heures d'entraînement par semaine. Donc je me suis dit, cette année, je fais un peu une année de transition et je repartirai peut-être sur une prépa Alpha Ironman. Mais dans un coin de ma tête, oui, pour répondre à ta question, c'est je peux me projeter, mais pas direct. Quoi. Mais dans quelques années, oui, complètement.
Tu dis que tu es dans un club de triathlon. Tes copains de club, là, quand même, dire que tu as fait championnat du monde, ils doivent se dire c'est cool, non? Ça donne envie, non?
Je pense que c'est sûr. Mais c'est aussi des gens, je rigole parce que c'est aussi des gens de mon club qui m'ont donné envie de faire les championnats du monde. Ouais. Donc je pense qu'il y a un niveau qui est de plus en plus élevé dans mon club. Et je pense qu'on se transmet un peu la motivation et quand l'un voit que l'autre peut le faire, se dit bah en fait je suis pas non plus si loin donc pourquoi pas moi tenter la qualif. Et c'est un peu comme si on se passait le flambeau les uns après les autres et ça c'est très intéressant parce qu'en plus on s'entraîne sur beaucoup d'entraînements ensemble et ça donne une bonne synergie aussi.
Alors pour le dire quand même, c'est quelqu'un là qui écoute et qui se dit moi aussi je voudrais me qualifier pour le championnat du monde. Il y a des courses intermédiaires, ça joue à quoi? À la place, au temps?
À la place. Donc, en gros, il y a, je pourrais pas dire le nombre de, en fait, les championnats du monde Ironman 73 ou championnats du monde Ironman, faut comprendre, la première chose à savoir, c'est que c'est une marque qui organise les championnats du monde. Contrairement à quasiment tous les autres sports où c'est pas forcément le cas. Et cette marque, du coup, elle détient beaucoup de courses et les courses qu'elle détient sont qualificatives pour les championnats du monde. Donc, typiquement, pour les championnats du monde Ironman 73, donc Alpha Ironman comme j'ai fait, il y a 3 courses qualificatives en France. Les Sables d'Olonne, il y a Nice, il y a Aix. J'espère que j'en oublie pas une. Ah si, Vichy, donc il y en a 4. Et sur Ironman, il y en a 3, c'est Vichy, Nice et Aix. Non, Aix, il n'y a pas, donc il doit y en avoir que 2. Et après, dans plusieurs pays, il y a des courses. Quoi. Je sais que certains arrivent à se qualifier. Il y en a à Marrakech, il y en a en Asie du Sud-Est, il y en a vraiment absolument partout. Mais je pense que là où il y en a le plus, c'est aux États-Unis. Je crois que là, il y en a une dans chaque État quasiment, voire plusieurs dans chaque État. Donc, et du coup, je n'ai pas répondu tout à fait, désolé. En gros, quand on va sur ce genre de course, il y a plusieurs slots qui sont alloués qui sont qualificatifs pour les championnats du monde. Et par exemple, dans une catégorie, moi j'étais dans la catégorie 30-34, il y avait par exemple, j'étais au Sable d'Olonne, il y avait 5 slots qui étaient qualificatifs. Du coup, il faut faire un top 5 dans sa catégorie pour se qualifier.
Ouais, donc c'est le premier gros objectif en fait, pour dire, là c'est vraiment un gros objectif, parce que sinon la suite n'est pas possible, c'est de dire là. Et c'est la qualification, tu la décroches à quel moment en fait? Il y a combien de temps en fait?
Alors, moi, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en septembre 2020, que j'ai décroché le slot.
D'accord. Et en fait, tu déclenches le slot, après, tu as combien de temps? C'est pour, tu dis, par exemple, en 2020, c'était pour, tu as le temps, tu as un ou deux ans pour y aller, ou c'est 2020, c'était prévu pour 2022 ou...
Alors, à la base, c'est normalement, c'est pour l'année qui suit, mais il se trouve que c'était en plein Covid, donc ça a compliqué toutes les règles. D'ailleurs, c'était assez pas mal. Normalement, la course où je me suis qualifié au Sable d'Olonne devait avoir lieu en juillet.
Ouais.
Déjà, elle avait été reportée en septembre à cause du Covid. Et en juillet, elle devait être qualificative pour les championnats du monde 2020, parce que c'était 3-4 mois après.
Ouais.
Et sauf qu'en septembre, quand on est arrivé, je crois que c'est même le jour de la course qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de championnat du monde cette année 2020, que c'était reporté à l'année d'après, et que l'année d'après, où ça devait avoir lieu... Non, je pense qu'on le savait avant que ça n'allait pas avoir lieu en 2020. On savait que ce serait en 2021, que ça devait être en Nouvelle-Zélande. Quand on est arrivé sur place, ils nous ont dit, mais en fait, ce ne sera pas en Nouvelle-Zélande, ce sera à Saint-Georges, mais ça aura comme lieu en 2021. Et après encore, entre-temps, ça avait changé. Ils avaient reporté de 2-3 ans, je ne sais plus, la Nouvelle-Zélande, et ils ont alloué à Saint-Georges plusieurs fois. Donc, ce n'est pas un bon exemple, parce qu'à cause du Covid, a vraiment tout bouleversé pendant 2-3 ans. Là. Mais normalement, si on se qualifie une année, c'est pour l'année d'après. Ouais.
D'accord. Donc, ça veut dire que ça, c'est déjà... parce que pour ceux qui se fixent des objectifs, c'est vrai que c'est déjà un objectif qui est du moyen terme. Quoi. Tu te dis même du long terme, parce que finalement, tu me dis, tu as commencé à y penser il y a combien de temps? Tu te dis, ah, je vais faire un chemin du monde.
Alors, il y a 3 ans et demi.
Ouais, donc là, c'est vraiment un objectif de long terme, en fait. Tu dis, là, 3 ans et demi, j'ai une première étape, c'est de passer le slot de qualification. Alors, tu as plusieurs chances, j'ai envie de dire, parce que si tu l'es pas au Sable d'Olonne, bon, tu pouvais toujours te dire, je vais aller me mettre sur une autre heure. Après, c'est des questions de budget, d'entraînement, de prépa et tout. Ouais. Mais en tout cas, je veux dire que tu as plusieurs chances, et à la limite, même si tu n'es pas en France, tu peux te dire, avec un peu de chance, j'ai peut-être plus de chance à Marrakech parce que le climat me conviendra mieux, parce que là, je serai pas frigorifié ou je sais pas quoi. Tu peux Exactement. Jouer comme ça, en fait.
Ouais, il y en a beaucoup qui font ça, d'ailleurs. Il y a même certains qui veulent à tout prix y aller et qui, du coup, vont dans des pays où ils savent qu'il n'y aura pas beaucoup de niveau et, pour se qualifier, ouais. Mais ouais, bon, c'est complètement possible.
Ça me rappelle un peu, parce que j'avais fait un épisode sur le swimrun avec les qualifications d'Otilo. En fait, Otilo copie le système Ironman dans ces histoires de slots, etc., où il y a des points qui sont marqués, où ils ont des systèmes, et Otilo devient les championnats du monde, vraiment, où il faut se qualifier pour arriver à Otilo. Et il y avait ces stratégies-là aussi, on avait parlé dans un épisode, où il y avait ces calculs de dire, ah, il faut aller à telle course, on a telle personne, etc., si on marque tant de points, on va pouvoir arriver à passer le cap. Et déjà, c'est la première étape. Et c'est vrai que la préparation, parce que, en fait, ton résultat, ta qualification dépend bien sûr de ton entraînement, mais elle dépend aussi des gens que tu auras en face.
C'est ça.
Rentrer dans les 5, tu sais pas qui c'est que t'as en face. Bon, les pros, à limite, ils savent quels sont les pros qui vont venir, mais toi, tu les connais, tes concurrents là, dans ta catégorie?
Non, pas du tout. Ouais. Ouais, non. Non, en vrai, c'est compliqué parce que c'est à niveau amateur, donc ça peut être des gens qui viennent d'un peu partout en France. Je sais que les Sables d'Olonne, Nice, c'est en plus des triathlons qui sont vraiment, enfin, surtout Nice, je dirais, ou Aix, sont vraiment des triathlons connus dans l'Europe entière. Donc, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent sur ces courses. Donc, ouais, non, je dirais que c'est impossible de savoir. Peut-être qu'on peut connaître un nom dans Nice. Ah oui, lui, j'ai déjà vu son nom quelque part, mais voilà. Non, ouais. Globalement, c'est compliqué.
Ouais, t'imagines, tu te prépares et tout, tu repères, tu dis, ouais, attends, je vais doubler. Et puis, t'as un quart de 10 Allemands et 3 Italiens qui arrivent et il viendra faire toutes les places. Ça, tu peux pas le prévoir. N'empêche que j'ai souvent parlé de stoïcisme et j'ai souvent parlé de ça. Et l'autre jour, j'ai assisté à une conférence en préparation mentale. Marion Laure Blanchet, qui était championne du monde de triathlon, qui disait exactement ça, qui disait, le résultat, en fait, il dépend pas de nous, donc faut pas se concentrer sur le résultat. N'empêche que sur la préparation, sur l'objectif, il faut quand même te dire que tu y vas quand même pour le résultat. Et donc, j'imagine que dans toute la préparation, tu dois avoir une stratégie pour dire, il faut que je bonifie mes points forts, il faut que je minimise un peu mes points faibles, je dois faire quand même pas mal d'heures et tout. J'imagine que la préparation, bon, maintenant, tu sais que tu as réussi ton truc, mais il y a quand même du stress sur une telle préparation, de te dire, est-ce que je vais bien y arriver, est-ce que c'est possible de le faire par rapport à mon travail, par rapport à tout ce que j'ai à gérer.
Complètement, ouais, complètement. En plus, il se trouve que d'un point de vue personnel, j'ai commencé, certains diront que c'était le pire moment pour démarrer une prépa pour tenter de se qualifier au championnat du monde, mais j'étais en plein milieu de ma thèse de doctorat et j'ai peut-être pas choisi le meilleur moment. Et du coup, je me suis lancé ce défi, ce challenge et Et au compte, enfin, en fait, ça vient un peu au fur et à mesure. Donc, au début, je me suis dit, je sais que mon point faible, par exemple, c'est le vélo, à l'inverse de la natation, où je sais que sur ces genres de distances, vu que je suis nageur à la base, je vais avoir des facilités, contrairement à mes concurrents. Donc, en fait, je me focalise sur le vélo. Et du coup, clairement, pendant la thèse de doctorat, j'étais obligé de faire des choix, comme tu viens de dire. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. C'est que clairement, je ne pouvais pas m'entraîner dans les trois à fond dès le début de ma prépa. C'était juste impossible. Et donc, je suis vraiment allé petit à petit. Donc, d'abord, beaucoup de vélo. J'ai essayé de renager un peu à une période. Et sur la fin, je me suis concentré sur la partie course à pied, mais seulement un mois et demi avant la qualification, parce que je savais que ça, c'était devenu mon point fort à la course à pied.
Donc, ouais, moi après, ouais. J'ai envie de me dire, tu prends un home trainer, tu prends trois livres sur ton home trainer et ta thèse, tu fais dans le temps.
Si seulement. Ça va être plus simple.
Est-ce que ta thèse, elle a un lien ou pas avec le sport d'ailleurs?
Non. Alors, j'ai fini par en trouver, parce qu'aujourd'hui, du coup, ça on ne l'a pas trop indiqué, mais je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Fleet Sport. Et du coup, on crée une intelligence. Il se trouve que mon doctorat, je l'ai eu en intelligence artificielle, en informatique avec une spécialité en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on crée un algorithme d'intelligence artificielle pour faire la planification d'entraînement. Et ce qu'on met en place dedans, c'est aussi beaucoup d'algorithmes d'analyse des signaux déjà existants d'activité de l'utilisateur. Il se trouve que, par exemple, tout ce qui analyse des signaux cardiaques et intelligence artificielle pour détecter des patterns dans ces signaux, ça, je l'ai fait pendant ma thèse. Donc, j'ai quand même travaillé sur les mêmes thématiques, mais sans l'appliquer au sport. Et aujourd'hui, je l'applique au sport. J'ai transféré un peu les connaissances que j'avais, que j'ai acquises pendant mon doctorat pour maintenant ma startup, quoi.
Et alors, comment tu t'organises justement pour... Alors, tu commences à t'es en thèse de doctorat, tu commences à t'entraîner. Tu fais quoi? 10, 15, 20 heures d'entraînement, combien tu planifies au départ?
En général, c'est entre 10 et 15. Et quand j'arrive dans le bloc de spécificité sur la fin, enfin un mois et demi à peu près avant la compétition, là, je passe à quasi 20 heures, voire 20 heures. Mais sinon, c'est entre 10 et 15 en moyenne dans l'année, quoi.
Rassure-moi, tu n'as pas un bébé en plus dans les
non.
Derrière. T'as pas ça à gérer en plus.
Non. Non, là, ça aurait été compliqué. Ouais, plus que compliqué.
Alors, comment tu places ça dans ton truc? Parce que même, l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'heures. Quand une startup, t'as des trucs dans tous les sens. Il faut trouver des clients, il y a des fonds, il y a des gestions de plein de choses, etc. On dit qu'il faut pas se disperser. On dit qu'il faudrait avoir qu'une seule priorité. Là, ça fait quand même plein de petits chevaux qui avancent en même temps. Ton histoire là, c'est pas facile à planifier tout ça.
Ouais, moi, je comprends et j'ai déjà entendu ce que tu dis, mais. Moi, j'ai un peu la théorie inverse. J'aime beaucoup faire deux choses en parallèle. Et c'est les seuls moments où je ne l'ai pas fait, c'est là où ça s'est moins bien passé, en fait, dans l'une et l'autre. Et en gros, en discutant aussi avec des amis qui ont aussi fait des doctorats et tout ça, et avoir un petit à côté, quelque chose, un petit, du coup, qui prend finalement pas mal de place, bah, ça permet, en fait, de relativiser un peu l'un par rapport à l'autre. Donc, si ça se passe un peu moins bien pendant le doctorat, parce que, bon, ceux qui ont entendu parler de doctorat, on sait très bien que c'est des phases up, down, ça va bien, puis ça va un peu moins bien, etc. Bah, en fait, dans les phases de moins bien, bah, du coup, on a toujours autre chose à quoi se rattacher, quoi. Ce qui, pour moi, était le sport. Il y en a d'autres qui ont des projets transverses, des fois liés à leur doctorat, des fois liés, à leur vie sociale ou autre. Moi, si je trouve que c'était le sport, franchement, c'était quelque chose où j'étais sûr de pouvoir compter dessus. Et pareil, quand je suis dans les périodes à fond, quand je suis dans les cycles de spécificité, quand je suis pas loin d'approcher du gros événement sportif, bah, ça m'enlève un peu de pression de me dire, finalement, si je performe pas si bien que ça, c'est pas trop grave, sur le reste à côté, ça se passe bien, je suis en train de faire mon doctorat ou je suis en train de faire mon entreprise. Et je trouve que ça, psychologiquement, je sais pas si ça existe une théorie qui se rapproche un peu de ça et tout, mais en tout cas moi ça permet d'avoir un super équilibre.
Mais en fait c'est quelque chose dont on a discuté avec Raphaël Oma qui est préparateur mental dans un épisode il y a peut-être un mois maintenant quand même, qui lui est beaucoup pour le, qui encourage beaucoup, il le dit dans son livre, il le dit dans plein de trucs sur le double projet en fait, il le dit beaucoup à ses étudiants parce qu'il a tout un tas de casquettes, mais il le dit beaucoup à ses étudiants, il le dit beaucoup même aux footballeurs, tu vois, parce qu'il a des footballeurs pros et tout. Et c'est vrai que quand tu es un petit peu monotache sur un truc et que sur un coup de moins bien, finalement, comme tu dis, si ça va pas, tu t'as pas le reste pour rattraper, tu peux pas changer d'air, quoi. T'es vraiment imprégné là-dedans. Et c'est vrai qu'il disait l'importance du double projet, d'avoir deux trucs, que c'était super important. Donc c'est, je mettrai le lien dans les notes d'épisode parce qu'il en avait parlé de ce sujet-là.
Et... je suis très intéressé pour lire le livre parce qu'on, j'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes. Ils avaient la même impression que moi et je sais pas que ça se vérifiait quelque part par des théories ou un bouquin ou autre, donc je suis très intéressé pour le lire.
Oui, parce que en fait c'est un épisode en effet sur le stress et c'est vrai que c'est intéressant parce que en disant le stress on le voit du mauvais œil, mais le stress a aussi des effets bénéfiques, hein, c'est ce qu'il dit.
Complètement.
Et que finalement c'est aussi cet équilibre là et que comme tu l'as très bien dit, cette histoire de dire bon bah si d'un côté c'est un peu compliqué mais que de l'autre côté ça avance bien, finalement ça relativise tes doses de stress, ça te sort un petit peu d'un truc, c'est une espèce de balance en fait, hein. On pourrait dire tiens l'histoire quand même c'est d'arriver à équilibrer parce que il y a un moment donné il faut quand même t'arriver à avancer sur les deux parce que la thèse c'est combien d'années?
3 ans.
Ça va, t'as fait vite.
Ça peut être pire. Aux États-Unis, je peux aller jusqu'à 10 ans, donc je m'en suis bien sorti.
Ouais, alors, pour l'anecdote, un jour, j'ai rigolé parce que j'étais interviewé par quelqu'un qui avait une thèse sur les réseaux sociaux et qui était en 4e ou 5e année. Mais comme les réseaux sociaux changent tous les 3 ou 4 mois, je me suis dit, mais tu vas jamais la finir, ta thèse. C'est pas possible, ton truc. Tout ce qu'on disait, le temps qu'il prépare, qu'il fasse les décortiquages et ses entretiens et tout, c'était déjà terminé. Donc, je me suis dit, mais c'est impossible à faire. Bon, après, l'intelligence artificielle, j'imagine que ça avance vite, mais sur les modèles théoriques et tout, bon, ça doit être plus, t'as un peu plus de
ouais,
marge.
C'est ça, ouais. En plus, c'était moi sur un domaine très spécifique. Du coup, voilà, ça avance vite, hein, mais c'était, peut-être que je peux le dire, c'était sur tout ce qui était signaux électroencéphalographiques et électrocardiographiques. Donc, c'est en gros des électrodes qu'on met sur le scalp de la personne ou au niveau du cœur. C'était surtout sur EEG, donc sur le scalp, hein, moi, sur quoi je me focalisais. Donc, en fait, déjà, il n'y a pas non plus un million de jeux de données sur lesquels on peut tester. Il y a plein de choses à mettre en place. Donc, ça avance vite, mais dans un autre sens, c'est pas quelque chose comme que tu disais, les réseaux sociaux qui avancent là vraiment très, très vite. Là, en fait, on teste un algorithme sur des jeux de données avant d'en développer un autre. Il peut se passer quelques années ou en tout cas qu'il y en a un qui prouve que c'était vraiment bien, que tout le monde s'y penche aussi. Ça se fait un peu plus, voilà, c'est à l'échelle de plusieurs années, alors que lui, l'autre personne, j'imagine, c'était plutôt quelques mois, tout peut changer, quoi.
Oui, puis ça dépendait vraiment pas, en plus de lui et tout. Parce que sur Instagram, il rajoute une fonction toutes les semaines. Hein. Je sais pas, et ça se trouve, il a toujours pas fini, hein, ça fait. Bon, c'est une blague. Oui. Ça se trouve, c'est trop interminable. Et ils lui ont dit, monsieur, il va falloir partir à un moment donné. Vous avez 40 ans, il va peut-être falloir arrêter. Mais alors, bon, t'as eu ton doctorat?
Oui.
Bon, alors ça, après derrière, tu deviens fondateur de start-up. Et donc, t'as toujours ton projet. Comment tu t'organises alors dans ces histoires-là? C'est quoi le temps? Tu me dis 15, 20 heures d'entraînement. J'imagine que ce niveau-là, c'est... t'es un triathlète. T'as un jour de repos quand t'es triathlète?
Pendant la plupart du temps, oui. Dans les derniers cycles, où là, enfin, comme je disais, entre 10 et 15 heures, bon, il y a toujours un jour de repos. Quand on passe à 15, 20 heures, non, malheureusement, il n'y en a plus.
Alors, c'est quoi l'organisation d'une journée, alors, dans ce cas-là?
Alors, en fait, là où j'ai de la chance aussi, quelque part, que ce soit en doctorat ou start-up, c'est des projets assez perso. Moi, en start-up, on est quand même 3 associés là actuellement, avec des employés et tout ça. Donc, on travaille tous ensemble. Mais le fait que je sois mon propre patron, ça aide quand même à gérer mon propre emploi du temps, quoi. Je ne suis pas obligé d'être là à 9h, par exemple, pour pointer le matin. Je ne suis pas obligé d'être là à 17h toujours pour pointer le soir. Donc en gros, et doctorat c'était pareil, c'est un projet perso, donc là c'était pour un coup j'avais même pas de meeting ou très peu, donc c'était encore plus facile, quoi, de gérer son propre emploi du temps. Et en gros, je dirais que cette flexibilité, bah, ça me permet par exemple d'aller nager sur l'heure du midi. Donc l'été dernier par exemple, je nageais 3-4 fois par semaine et c'était toujours sur ma pause déj. Donc voilà, après je mangeais tranquillement devant mon ordinateur et après le soir c'est pareil, je pars à l'heure que je veux, donc suivant l'entraînement que j'ai, je peux si j'ai à rouler, je vais partir un peu plus tôt, course à pied après, dans tous les cas ça peut se faire après 18h, quoi. Donc voilà, c'est en fait le fait d'être mon propre patron ou d'avoir été doctorant qui me permettait d'avoir un emploi du temps vraiment flexible, et c'était ça clairement la clé. Et on parlait de mes amis là du club de triathlon qui s'était qualifié dans le passé pour les championnats du monde. voilà, eux, ils ont des métiers qui leur permettaient aussi d'être assez flex avec pas mal, soit avec pas mal de temps libre. Il y en avait un qui était professeur au lycée, soit libéral. Du coup, il était kiné et ça permettait aussi de choisir ses propres horaires. Donc, je pense que ça, c'est un peu une des clés qui aide pour cette organisation, quoi.
Ouais, et puis pour revenir sur Adrien Leroux, lui, il est directeur de piscine. Donc, il est à la piscine, là, sous.
Ouais, c'est ça.
Mais lui, il a, par contre, je crois qu'il a 3 enfants. Faudrait, je vérifie sur son compte Instagram. Mais on en avait parlé justement sur l'organisation pour avoir ça. Il a fait Embraman et compagnie. Et l'organisation avec les enfants et tout, bon, il faut une sacrée logistique. Pour avoir le faire, quelqu'un m'a dit. Je sais plus quand. C'est dans l'épisode que j'ai diffusé cette semaine. C'est Alexandre, il m'a dit chez les triathlètes de haut niveau, comme chez les coureurs d'ultra de haut niveau, il y a beaucoup de gens quand même qui sont divorcés, qui sont célibataires, qui ont que à gérer en plus du travail, des choses comme ça, parce que il est 15 à 20 heures quand même dans une semaine. C'est parce que par exemple le vélo, quand tu pars faire une sortie vélo, tu peux pas rouler une heure. Les sorties vélo, c'est forcément plus long.
Ouais, c'est au moins 2 heures. Après, maintenant, avec le home trainer, je sais que j'ai des séances, c'est juste 1 heure. Mais bon, ça reste une séance par semaine qui dure 1 heure. Après, effectivement, tous les ads, c'est 2 heures au moins sur la fin de la prépa. C'est des sorties de 4 heures qu'il faut faire. Donc, ouais, effectivement, à caser dans l'emploi du temps, c'est compliqué. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui se trouve être aussi en thèse de doctorat. Et qui court beaucoup à côté, donc en fait ça aide au niveau compréhension de faire beaucoup de choses un peu tout le temps. Voilà, on se comprend pas mal là-dessus et il n'y a pas du tout de friction ou autre. Donc ça c'est le top.
Et t'as pas dit qu'il voulait faire un Ironman ou un truc comme ça, elle?
Alors elle a pris sa licence dans mon club de triathlon, donc c'est un début. Elle n'a pas encore annoncé, je crois que la partie vélo, je crois que ça ne lui dit pas trop, mais swim run, du coup je ne connaissais pas, je viens d'apprendre là qu'il y avait un circuit ici pour tenter les qualifs, donc je lui en parlerai je pense ce soir.
Ouais, puis méfie-toi qu'elle t'amène, parce que le swimrun, elle n'empêche, ça peut faire une chouette aventure. Maintenant, il y a des swimruns en individuel, mais normalement, le swimrun, c'est en équipe. Et Otilo, c'est toujours en équipe, d'ailleurs, je crois. Et je crois pas qu'il y ait des trucs individuels, mais en plus, vous avez une corde. qui est pas obligatoire. La corde n'est pas obligatoire, c'est une stratégie de savoir si on met la corde ou pas. Mais là, bon, l'épisode, on avait fait avec parmi les meilleurs Français dans le domaine, hein, qui expliquait ça, qui disait que c'est une stratégie vraiment de savoir si elle sert à quelque chose ou pas. Mais méfie-toi qu'elle t'amène pas hein, sur un truc comme ça, parce que je sais pas comment tu en ressors si ça se passe mal dans une course, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais, ton couple peut en sortir détruit.
Je pense qu'il faut bien mettre les choses au point en disant la course c'est la course et en dehors on verra comment ça se passe parce après c'est une plaisanterie, mais c'est vrai que suivant les caractères, comment on a des caractères
et tout ça peut aller vite.
Sur les compétitifs, si il y a une harmonisation des niveaux, faut savoir aussi pour Otilo, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent tout seuls, qui cherchent des partenaires. J'ai vu un reportage, Canal Plus a fait un reportage très intéressant sur le sujet, qui montrait que ceux qui veulent gagner, faut qu'ils trouvent un partenaire de leur même niveau. Ils se font un peu la gueule quand il y en a un qui avance pas aussi vite, qui s'entraîne pas aussi vite, ou qui est un peu grande gueule, mais qui en fait est pas aussi performant que ce qu'il veut bien dire. Donc il y a des sortes de trucs. Bon, là en couple c'est un peu différent parce que vous entraînez ensemble, vous voyez un petit peu différemment, mais c'est vrai que ça peut être une autre aventure, parce que je suis sûr qu'en plus il y a des magnifiques swimruns en Nouvelle-Zélande, hein. Si un jour vous voulez faire un swimrun en Nouvelle-Zélande, je suis sûr que vous en trouverez un magnifique aussi. Ça peut faire un joli voyage aussi, mais bon, je peux pas vous mettre au swimrun, hein, mais et attends, t'as déjà t'as deux domaines et donc t'as pas de vélo à faire. Tu vois, moi je me dis, c'est pas ça, mauvais calcul.
Trop. Et en tout cas, moi j'aimerais bien essayer personnellement, quoi qu'il arrive, en individuel ou que ce soit individuel ou par équipe, swimrun, c'est quelque chose qui me dirait bien. Ouais. Parce que justement, cette histoire de vélo qui est très 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 chronophage, et c'est d'ailleurs pour ça que je me vois pas refaire une saison de triathlon là cette année, enfin une grosse saison de triathlon longue distance, parce que le vélo ça prend trop de temps.
D'ailleurs, c'était la discussion qu'on avait. Alors, je suis en train de rechercher leur nom, mais c'est Jérémy Huguet et Nicolas Martin. Donc, c'est l'épisode 62. Hein. Il y a qu'à voir. Là, toi, je te diffuse l'épisode 163, donc il y a 2 ans. C'était 2020, tu vois, dans ces zones-là, parce que c'est quand j'ai fait mon swimrun à moi. Je leur ai demandé des conseils. J'ai dit, c'est quoi les conseils, vous, là, les bons et tout. Et ils viennent du triathlon aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu fais du triathlon, tu maîtrises les deux éléments du swimrun. Après, c'est les enchaînements. potentiellement qui sont différents parce que c'est l'alternance entre de la course et de la natation. Tu nages avec les chaussures, tu as un peu de matériel. Bon, c'est un peu différent, mais c'est vrai que tu maîtrises les différents éléments. Donc, c'est vrai, c'est logique, j'ai envie de dire, que des triathlètes aillent sur du swimrun. Il y a des très belles épreuves et tout. Et c'est vrai que le vélo, bon, toi, tu es à Bordeaux. Bordeaux, oui. Il y a un temps qui est à peu près assez clément quand même, hein. faut pas se mentir. Ouais. Mais en hiver, le vélo, c'est quand même pas génial, quoi.
C'est pas, ouais. Là, en ce moment, par exemple, c'est pas ce qui m'attire le plus, ouais, clairement.
C'est pour ça que d'ailleurs tout le monde a ressorti son entraîneur. Swift est reparti plein de gars. Mon Strava est rempli de gens qui font de leur séance sur Swift et compagnie.
Ouais. Bah ouais, et puis il fait nuit tôt. Ça c'est. Bah quoi que j'ai un gars de mon club de trail long qui m'a dit qu'ils ont roulé en groupe avec lumière et tout. Mais moi la nuit, franchement les routes aux alentours de Bordeaux, les voitures elles déjà. Après, non, j'ai pas clashé sur les voitures, mais c'est vrai que des fois,
t'as droit.
Forcément, super attention. Ok.
On a droit, à clasher les voitures parce que les voitures sont responsables malheureusement de trop d'accidents, des morts et tout. Mmh. On a encore vu le champion cycliste là, qui est mort il y a quelques jours en vélo. J'ai des pensées pour une auditrice qui connaît très bien ce truc-là. Et franchement, faut le dire, en tout cas en France. Les conducteurs, il y a vraiment des salauds. Moi, je le dis honnêtement parce que j'ai roulé beaucoup en urbain et j'ai vu les dégâts. Et quand je vois sur les routes les trucs, je me dis mais c'est pas possible.
Ça va vite. Ouais.
Et c'est l'horreur. Alors que je sais plus qui m'avait dit ça. J'en ai entendu parler. Ou alors c'est peut-être dans un podcast Anne de Bendido qui disait qu'en Espagne, par exemple, ils avaient trouvé que les gens étaient beaucoup plus respectueux. Il y a des pays qui sont plus respectueux. Les voitures sont plus respectueuses, mais en France. Il n'y a aucun respect, sincèrement. C'est il y a deux trucs sur lesquels je clash. Hein. J'ai une bagnole, donc bon, et je fais attention moi quand je double. Et les chasseurs. Alors les chasseurs, moi je chasse pas, et alors eux je les clash encore plus fort. Donc un chasseur en bagnole, tu vois. si moi je suis en vélo et qu'il a sa petite remorque avec ses petits chiens derrière, parce que j'en ai un dans le coin qui fait ça, je le vois tous les samedis matins passer. Moi je suis en train de courir. Il me dit, lui, je me méfie, tu vois, si je suis en vélo, hop, je saute vite sur la piste cyclable.
C'est clair.
C'est parce qu'avec les remorques, les caravanes et tout, les camions qui se rabattent et tout, enfin, et voilà. Ouais, c'est vrai que la route pour le vélo est dangereuse, il faut dire. Je comprends pourquoi les cyclistes ont besoin de rouler en groupe aussi pour se protéger, l'effet de masse et tout est important. Et malheureusement, on le dit trop. Et dans ce cas-là, on dit toujours que c'est les cyclistes qui doivent mettre un casque et on oublie que c'est les voitures qui devraient aussi faire attention, respecter le code de la route. Bon,
bah oui, complètement.
Cette parenthèse est en fait.
Les casques ne sauvent pas. Mais on a beau porter des casques, ça n'empêche pas un nombre de morts certains par an sur les grandes routes quand je parle des nationales et tout ça.
Ouais.
Mais oui.
C'est pour ça d'ailleurs que je pense aussi que le gravel a du succès. Parce qu'il y a des moments où moi je vois, tu vois, mon but c'est de faire un gravelman. Et je me dis, il y a des endroits en vélo, je ne veux pas y rouler. Mais par contre, il y a un joli chemin sur le côté parce que j'y cours sur ce joli chemin. J'aimerais bien y passer sur ce joli chemin, puis récupérer des petites routes ailleurs, faire des alternances, des trucs comme ça. Et je vois les gens passer en gravel. Et là où moi je me dis, tiens, ça va être sympa, je les vois passer en gravel aussi. Donc je me dis, je ne suis pas le seul à avoir repéré cette route-là. Il va peut-être mieux prendre le petit chemin à côté qui était plus sympathique. En plus, tu passes dans la forêt, tu peux t'arrêter sur un petit banc, cueillir des champignons l'automne, si t'aimes ça, moi j'aime pas ça. Mais en tout cas, voilà.
C'est plus nature en plus, ouais, ça donne un autre côté plus charmant, en plus plus agréable, parce que c'est vrai que, bah, typiquement, je suis à Bordeaux, t'es à Bordeaux d'ailleurs aussi.
Non, je suis en Auvergne, moi. Non, Bordeaux, j'étais supporter des Girondins de Bordeaux, mais tant qu'ils jouaient bien au foot.
Yes. Et oui, je sais pas pourquoi j'étais personnel, mais du coup, autant pour moi. Donc ouais, je parle beaucoup de Bordeaux, mais du coup, ouais, non, c'était pas le sujet.
Non, mais Bordeaux, c'est une chouette ville.
Qu'à Bordeaux, ouais, mais c'est une chouette ville, et on a en fait ce qu'on appelle les quais au bord de la Garonne. Et enfin bon, c'est des quais, mais il se trouve qu'on peut vraiment, on a un super circuit de 7 km qui fait le tour de deux ponts. Et ça, pour courir, en fait, c'est un peu le paradis des runners ici. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de grosses villes qui peuvent se targuer d'avoir ce genre d'espace pour pouvoir courir vraiment tranquillement. Donc là, en fait, on a un espace pour pouvoir s'entraîner super bien. Mais c'est vrai que quand on est en ville, au bout d'un certain temps, ça donne envie, comme toi, quand tu vas faire du gravel, ou que ça te donne envie de faire du gravel, c'est de pouvoir être à la campagne et retrouver un peu la nature. C'est ce qui manque. Moi, je trouve ce qui manque en triathlon, ce qui m'a un peu manqué, c'est de rouler justement sur des grandes routes. Non, du coup, c'est le fait de rouler sur les grandes routes, ça m'a fait manquer le côté un peu nature. Pareil, courir tout le temps sur les quais, j'aurais préféré courir en nature aussi, etc.
Mais après, tu as du triathlon, cross et tout. Alors, dans les formats pro, c'est les XTERRA et compagnie, les grands parcours. Je parlais de Marion Laure-Blancheux qui était c'était son domaine et tout. Mais tu as le triathlon cross, tu as tous les trucs comme ça. Ça te tente pas d'essayer ça?
Si, ça me tente très bien. Mais du coup, il faudrait pouvoir avoir un terrain aussi pour m'entraîner. Enfin, là, du coup, je cours que sur route, que sur du plat. Donc, ça va être compliqué après de passer sur XTERRA en m'entraînant que comme ça. Donc, peut-être un jour, si je bouge à la campagne ou autre. Mais ouais, c'est vrai que ça manque le petit côté nature, serait sympa. Ouais.
Tu dis que tu as un jour de repos quand même dans ta semaine. C'est un vrai jour de repos ou c'est un jour de repos de triathlète? Enfin, tu fais vraiment rien du tout?
Alors, ouais, je fais vraiment rien du tout. Au niveau sport, quoi. Ouais. Vraiment, ouais, non, vraiment rien. Je réfléchis, mais non.
Ouais. Ouais. Le temps de réflexion, quand même, je vous dis. Attends.
Ça dépend des périodes aussi, des cycles d'entraînement. Donc, c'est pour ça. Au bout d'un moment, ce jour-là, ça se transforme en jour. On fait juste le petit gainage, la petite muscu pour se renforcer un peu. Et après, comme je disais, ça devient juste un genre d'entraînement normal parce que sinon, on ne peut pas caser les 20 heures dans la semaine. Mais en règle générale, ouais, je dirais que si, quelques mois dans l'année, j'ai un vrai jour de repos où là, je suis en rien, quoi.
Cette histoire, pour revenir sur la préparation... Combien de temps tu mets pour préparer les Sables d'Olonne, en fait, pour c'est des temps de prépa de combien de temps? Ça se calcule en semaine, en mois? Ça se calcule comment, ces trucs-là?
Alors, je pense que ça va être à la personne qui veut faire la course de déjà essayer de savoir combien de temps elle peut dédier. Et ce sera toujours le maximum possible la réponse à la question. Moi, il se trouve que j'ai dit un an et demi parce que si, en gros, je voulais aller au Sable d'Olonne pour tenter la qualif, c'est qu'une fois par an, je ne me voyais pas faire ça au bout de 6 mois. Donc voilà, je m'étais juste dit l'année prochaine au Sable d'Olonne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les inscriptions sur les courses, c'est généralement déjà booké un an avant. Donc à 6 mois avant, c'était déjà trop tard pour inscrire, c'était déjà complet dans tous les cas. Donc c'est un peu pour ça que c'est décidé un an et demi. Et après, on va créer les cycles d'entraînement un peu en fonction de ça, quoi.
Parce que le cycle d'entraînement sur un triathlon comme ça, il faut quoi? Parce que bon, tu t'entraînes toute l'année. Sur la prépa, bon, tu as une accélération forcément, une intensification de la préparation. Tu veux dire qu'elle est sur combien de temps, l'intensification de la préparation?
Elle est sur 1 mois et demi, 2 mois, je dirais. 1 mois et demi, 2 mois, et on l'a fait... Du coup, si par exemple, on part vraiment sur une prépa d'un an, on va essayer de couper à peu près en deux. Suivant, on va mettre un peu des objectifs intermédiaires pour déjà prendre un peu la température et tout ça. Et donc, on va créer deux pics de forme si on a autant de temps devant nous. Si on a par exemple 8 mois, là par contre, on va rester sur l'objectif principal et peut-être qu'on fera des compétitions entre temps, mais on va pas essayer de créer un autre pic de forme entre temps. Mais du coup, sur 1 an et demi, là, ouais, j'avais fait des courses intermédiaires pour déjà tester le format Alpha Ironman. Parce que je l'avais fait une fois, mais c'était très mal passé. Donc, je voulais au moins le faire une fois bien et finir sans hypo, sans rien, avant de me jeter dans la qualif. Donc voilà, c'est des cycles. Et puis après, dans un cycle de 6 mois, comme je disais, ça va être juste le dernier mois et demi qui va être vraiment intense. Enfin, ce sera quand même un peu intense avant, mais ce qui fait vraiment mal, pour moi, en tout cas, je trouve, au niveau de la fatigue, parce que c'est là où il y a le plus gros nombre d'heures d'entraînement, donc le plus gros volume, on continue de mettre de l'intensité. C'est là où ça attire le plus, quoi, où je me sens vraiment le plus fatigué, c'est dans ce cycle, dernier cycle de spécificité, un mois et demi avant la compétition, quoi.
C'est quoi qui te fatigue le plus, toi?
L'entraînement qui me fatigue le plus?
Ouais.
Alors ça va dépendre un peu de quel type de fatigue. Je dirais que là où je me sens vraiment vidé, ça serait la natation ou les sorties très longues en vélo. Ça, c'est si je fais une très très grosse séance de natation ou une sortie très longue en vélo, c'est là où le lendemain et tout, je me sentirais vraiment un peu vide. C'est aussi après ces entraînements-là où je pourrais manger pendant des heures sans m'arrêter. C'est vraiment les plus durs, je dirais, dans ce sens-là. Après, ce que j'aime le moins, mais du coup, c'est un peu différent, c'est les séances très intenses, donc séances PMA en vélo, séances VMA en course à pied, très très rapide. Je trouve ça très dur. Et je trouve que musculairement, ça me fatigue beaucoup. Je suis moins à l'aise et c'est là où j'ai le plus... Je peux avoir des courbatures, par exemple, le lendemain ou autre. C'est sur ces séances-là, quoi.
Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, quand même, c'est que tu finis 50e de ta catégorie au championnat du monde.
Oui, ouais. Pile poil, je visais un top 50, donc parfait.
Et sur 476 dans la catégorie, Déjà, chapeau, bravo, hein, parce que faut le dire. Et tiens, Adrien Leroux, dont on parlait, il finit, lui, 28e. Vous étiez dans la même catégorie, hein, 30-34. Et c'est là où c'est un peu brut, c'est que vous avez 5 minutes d'écart.
Il y a devenu énormément. Ouais. Quand j'ai regardé le classement, je me suis amusé à regarder si jamais j'avais été un peu mieux en natation sans prendre trop froid. Juste en enlevant 5 minutes, j'avais vu que j'étais, waouh, ok, j'aurais gagné la moitié des places.
Ouais. C'est très impressionnant parce que finalement il y a une espèce de tir groupé et même lui je vois qu'il a 4 secondes derrière le précédent et tout, ce qui peut être très 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 rageant. Le premier il gagne en 4-0-3 en 4-3 et ce qui fait que finalement vous arrivez toi 20 minutes après quoi, grosso modo. Et il y a 50 places, ce qui paraît
en 20 minutes, ouais,
pas beaucoup. À la fois ces 20 minutes elles sont quand même énormes à gagner, parce que tu dis là, si tu dois gagner 20 minutes sur un alf comme ça, c'est quoi qu'il faut faire?
Du coup, pour ma part, après ça dépend de chacun. Adrien, du coup, si je comprends bien, il était nageur.
Ah, Adrien, oui, c'est un bon nageur, mais après, il est costaud, il est costaud dans tout.
Il est costaud dans tout. Parce que, par exemple, moi, je sais qu'en course à pied, j'ai beaucoup plus de facilité qu'en vélo. Enfin, il y a vraiment un écart entre mon vélo et ma course à pied. Donc, je sais que là où il me manque, c'est sur le vélo. Clairement, là où il me manque en course à pied, je crois que j'ai fait top 10 dans ma catégorie. Du coup, j'aurais du mal à grappiller tant que ça de minutes. Peut-être que j'aurais pu gagner une minute ou deux, grand max, quoi. Mais pour gagner 20 minutes, c'est sur le vélo que j'aurais dû tout mettre et puis aussi ne pas attraper froid.
Ouais, mais c'est-à-dire que quand même, pour grappiller 20 minutes sur le vélo, c'est-à-dire qu'il faut quand même sacrément développer les watts et compagnie. C'est-à-dire que c'est aussi on ne se rend pas compte du boulot qu'il y a pour arriver à le faire, en fait, gagner ce temps-là, quoi.
Ouais, c'est énorme. Déjà, j'avais gagné beaucoup de temps en l'espace d'un an et demi là, avant de faire le mon très long de qualification. J'avais déjà beaucoup travaillé le vélo et c'est vrai que les efforts que j'avais consentis, mais c'était des efforts payants parce que j'ai pu gagner 10-15 minutes sur le vélo à ce moment-là en l'espace d'un an et demi, quoi, entre mon premier triathlon Alpha Ironman et cela. Et je parle avec un parcours qui était à peu près similaire, quoi, même dénivelé à peu près. Donc ça peut aller vite. Mais plus du coup on monte en performance, plus c'est dur à gagner aussi les minutes.
Et pour te faire regretter encore plus, je viens de regarder, mais Adrien, c'est sur la natation qui te met un gros temps, en fait, il te met 6 minutes. Et c'est vrai, c'est là où on voit que les écarts, après, sont durs à rattraper, parce que finalement, vous êtes aussi beaucoup tous dans à peu près les mêmes allures, il n'y a pas des écarts énormes. Je veux dire, bien sûr, on a tous en tête, on a tous entendu parler de l'histoire de Jalabert qui sort dans les derniers de l'eau et qui rattrape tout le monde en vélo. Mais Jalabert, c'était un pro et qui a un niveau de vélo qui est tellement immense tellement d'années qu'il est capable de le faire. Et puis en course, il est pas manche du tout. Mais là, après, rattraper 6 minutes que tu perds dans l'eau par rapport au premier, je sais même pas combien, mais c'est quand même super dur à rattraper sur les autres disciplines quand même, quoi qu'on en dise.
Ouais, complètement. Ouais, non, c'est très très dur. Il fait combien en course à pied?
Je sais pas, je suis en train de regarder les détails, mais je suis pas très tac. Il finit en 1h23 la course à pied.
Ouais, trop bien. Non, il a l'air costaud partout. Hein.
Ouais. Non, mais après il est costaud partout. Il a un physique impressionnant aussi et tout, et beaucoup beaucoup d'entraînement d'ailleurs. Ce qui est une question. Alors moi j'ai une question sur le coût que ça représente, parce que il y a un coût, on a parlé du coût de temps, du coût humain, mais le coût financier, parce que Ironman c'est une licence privée, les inscriptions en course elles sont pas données, partir dans l'Utah là, pas rester juste une journée pour faire la course et t'es rentré, j'imagine que le budget global pour préparer à tout ça, puis le vélo et tout ça, ça doit être chiffré quand même.
C'est le vélo aussi, c'est l'autre raison pour laquelle le vélo, j'aime bien mettre de côté aussi dans les périodes de transition un peu, c'est que niveau matériel, déjà le vélo en soi il est vraiment super cher. Après il faut le casque aéro, les chaussures, faut le capteur de puissance. Quand on veut gagner justement 10 minutes sur un très long en vélo, il va falloir commencer à travailler à la puissance. Le capteur c'est aujourd'hui 500 euros à peu près. Ouais, j'avais fait le calcul mis bout à bout sans compter l'achat du vélo parce que je l'avais déjà, et en comptant les billets d'avion, les nuits, je suis arrivé 4-5 jours avant, l'inscription à la course et tout ça, c'était un budget de 4000 euros.
Juste pour les championnats du monde. Ouais. Juste pour cette course-là. Si on rajoute la qualification Sable d'Olonne, c'est quoi?
C'était 300, l'inscription à la course qualificative. L'inscription à la course des championnats du monde, c'était 600. Ouais, les investisseurs sont compris du coup dans les 4000. Ouais, donc ouais. J'avais même pas compris l'inscription s'abonne. Donc ouais, ça chiffre vite. Enfin, les prix en trailant sont un peu indécents. Ça, c'est un côté que j'aime pas vraiment parce que comme je disais, j'avais commencé. C'est aussi pour ça que je précisais tout à l'heure au tout début en intro que j'ai commencé le triathlon au lycée et que c'était pas du tout aussi connu que maintenant. Là. Et du coup, il y a plein de choses qui vont avec. C'est que quand on arrivait dans un parc à vélo, franchement, je venais d'avoir un vélo en aluminium. Enfin, plus personne n'a de vélo aluminium. Et pourtant, à l'époque, j'avais un vélo correct par rapport au reste des vélos dans le parc à vélo. Maintenant, absolument tous les vélos sont en carbone, que des vélos de contre-la-montre qui valent. Enfin, le coût matériel est devenu vraiment énorme. Le coût des courses aussi qui augmente chaque année. Je râle un peu parce que d'une année sur l'autre, ça peut doubler pour faire exactement la même course. Donc, c'est. Bah, il y a une attraction, enfin, je trouve ça trop bien parce que c'est un sport extraordinaire. Je trouve ça trop bien qu'il y ait autant d'engouement que les gens veulent en faire. Mais par contre, il y a toujours le côté des courses qui, du coup, savent qu'ils vont dans tous les cas faire, bouquet, faire carton plein. Donc, ils se permettent d'augmenter les prix des courses et tout ça. Et Ironman, voilà, ils ont leur qualité, mais un de leurs défauts, moi, je dirais, c'est justement ça. Si les inscriptions aux courses, ça devient indécent sur certaines courses, le prix, quoi.
Ils ont une certaine gourmandise et puis j'ai vu aussi quand ils débarquaient dans l'organisation de marathon parce qu'il y a d'autres courses qui sont organisées aussi, on disait aussi que les prix avaient une tendance aussi à augmenter, il y en a qui avaient un peu peur aussi de ce truc là de toute façon c'est pareil sur le marathon, on voit les prix. Alors déjà moi je trouve que le marathon de Paris est cher, quand on voit on m'a dit ouais mais tu verrais le marathon de New York, et effectivement quand on m'a dit le prix du marathon de New York c'est encore au-dessus, même si je pense qu'il y a un niveau de service qui est peut-être un petit peu différent sur tout ce qui est fait autour. Parce que je pense quand même que tu as été bien soigné. Enfin, je veux dire, on a parlé tout à l'heure en plaisantant des mecs qui t'enlèvent la combinaison façon flambi, mais j'imagine que l'organisation autour d'une course comme ça, ils sont quand même aux petits soins, les Américains.
C'est ça, là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'ils ont leur côté positif aussi. C'est que oui, l'organisation, elle va être au-dessus d'une orga, d'un club, d'un petit club qui organise la course du coin. Quoi. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais je sais que des fois, c'est pas justifié non plus. Tu parlais des marathons, par exemple. Nous, à Bordeaux, le marathon de Bordeaux, c'était ça. Ironman a racheté. Et 2 ans après, il n'y avait plus tout de marathon. Je pense que c'était pas rentable. Ils sont arrivés, ils ont racheté. Ils ont doublé le prix des inscriptions. Et l'année d'après, il n'y avait plus de marathon. Donc, c'était un peu dommage. Après, je n'ai pas les détails. Hein. Je sais pas si c'est à cause d'eux ou autre. Mais de nous, ce qu'il a semblé, en tout cas, c'est l'impression qu'on a eu, quoi. C'est, on a vu les prix, waouh, ok, ça a doublé, et après plus rien.
C'est dommage.
Ouais, c'est un peu dommage, ouais. Et surtout qu'ils ont tendance à acheter les courses qui marchent, donc qui sont souvent des courses avec des paysages magnifiques et tout, donc ils se gourrent pas quand ils achètent, mais
c'est un petit peu la tendance parce que ASO, il y a eu le marathon du Mont-Saint-Michel cette année qui a aussi sauté, et on disait pareil, les tarifs avaient augmenté. On regarde un peu l'UTMB qui devient une franchise et qui est en train de suivre le même système, etc. Donc il faudra un petit peu surveiller sur ce qui va se passer sur le trail, parce que c'est un modèle qui marche tellement bien, et puis ils auraient tort de se priver. Et puis on le voit aussi dans le CrossFit, où la licence CrossFit, les salles sont obligées de faire payer extrêmement cher parce que la licence est très chère. C'est un vrai business aussi d'une marque qui est forte, parce que la marque Ironman, on veut devenir un Ironman. Et puis à la fin, alors je sais pas comment ça se passe dans l'Utah quand t'as passé la ligne d'arrivée, mais moi je suis allé à Vichy, venez voir à Vichy, mais la ligne le truc d'arrivée quand tu passes dans les sas et tout, t'as les derniers virages, t'as les stands, you are an Ironman et compagnie et tout. Tu te dis, bon, franchement, t'as envie de le vivre.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est un ego boost, hein, clairement. Quand on termine la course, rien que d'être sur les courses, on sent que la ville à ce moment-là vit un peu pour ça. C'était le cas au Chemin du Monde, mais déjà au Sable d'Olonne, c'était un peu pareil. Sur tous les remblais, là, ils font ça bien. Clairement, il n'y a pas à dire. Ils font ça super bien. On paye, mais on a quelque chose de qualité. Ouais. C'est juste qu'il faut faire gaffe de ne pas tomber dans le trop cher non plus, quoi, pour garder ça un sport. Enfin, faire en sorte que le triathlon reste un sport quand même un minimum accessible. Et ce qui n'est plus trop le cas, enfin, plus les années passent, moi j'ai l'impression que c'est le cas.
Oui, alors après, c'est vrai que bon, il faut. On m'a donné le conseil, on m'a dit ouais, mais regarde les petits clubs et tout. C'est comme sur les marathons, il y a plein de petites courses qui sont pas très chères, et puis tu as des grandes courses par lesquelles tu vas passer. C'est vrai qu'après, bon, Ironman, ils jouent un peu sur ce truc-là, et la marque est forte, hein, ils savent très bien la développer. Et puis quand après, on voit les images, l'effervescence qu'il y a à Kona sur les championnats du monde et tout, ça donne pas envie d'y aller. de changer de catégorie là, de passer en sur la full, full.
Ouais. Alors si complètement un jour en tout cas c'est justement dans ma tête avant les championnats du monde je me serais dit la next step sera les championnats du monde full Ironman ou en tout cas au moins faire un full Ironman si j'en ai jamais fait donc avant de se qualifier faut déjà que j'en fasse un mais en gros ça aurait dû être la next step. Le fait que ce soit pas passé comme prévu ça me donne envie de d'abord refaire un peu de half d'en finir avec le half et après quand je serai vraiment satisfait du coup d'aller peut-être sur le full. Je dis ça c'est aussi que dans l'immédiat comme on le disait tout à l'heure c'est je me vois enfin du coup si je passe sur full faudrait passer à 20-25 heures d'entraînement, faudrait augmenter le volume en vélo et c'est quelque chose que je peux pas me permettre pour le moment donc la question se pose même pas trop au final. Bon, mais un jour j'espère.
Ouais et puis bon tu changeras de catégorie tu passeras chez les vieux petit à petit.
Ouais, c'est ça aussi.
Exactement. Il faut se méfier parce que les vieux, ils ont la caisse. Et tous ceux qui m'ont dit, en vieillissant, je vais devoir passer dans une catégorie, ce sera plus simple de qualifier parce que les vieux et tout, en fait, ils se rendent compte que les vieux ont une caisse, mais d'enfer, hein, il faut dire ce qui est. Bien sûr, après, il y a moins de vitesse, mais il y a une résistance aussi, il y a les années d'entraînement, il y a tout un tas de trucs qui sont impressionnants.
Et je pense que les générations, parce que des fois quand je regarde les catégories 18-24 ans, je trouve ça vraiment impressionnant qu'il y ait un volume comme ça avec des gens qui ils font des temps qui pourraient... Il y a énormément de gens qui font des temps assez similaires aux derniers pros au final. Donc il y a un gros volume. Et je pense que c'est une histoire de génération aussi, parce que moi, par exemple, ma génération 30-34, je regarde les classements 35-39, je me dis tiens, ça a l'air un peu plus facile. Mais sauf que quand toute ma génération va passer en 35-39, on sera tous pareils et je pense qu'on gagnera du temps. Et les jeunes qui commencent au collège, c'est maintenant, ils commencent à aller sur les distances half ou Ironman à 20 ans. Alors que moi, quand j'étais au lycée à 18 ans, on me disait, mais jamais déjà faire un marathon, c'était complètement déconseillé. On me disait que faire des sports de trop longue distance, ça allait nous casser et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. Y a plein de choses qui sont mises en place en plus aujourd'hui pour limiter qui enlèvent les freins qu'on avait à l'époque. Par exemple, à l'époque, tout, on disait tous les problèmes de genoux et tout qu'on retrouve à 40-50 ans, c'est parce qu'on part sur marathon à 18 ans. Au final, maintenant, avec les chaussures carbone, il y en a qui disent que du coup, ça limite les impacts ou déjà les améliorations des chaussures avant le carbone. Voilà, les jeunes, les gens iront de plus en plus jeunes sur ces distances-là, seront très forts, très jeunes et continueront de performer et du coup le niveau de performance augmentera année après année quoi.
Ouais parce que c'est vrai que les clubs de triathlon se structurent. Moi j'ai une pensée sur Sport Nutrition on fait un podcast avec Happy Run et où le fils de Leila et bien, il est en club de triathlon et quand je vois comment il carbure en course et tout je me dis avec les années d'entraînement s'ils poursuivent etc les jeunes comme ça avec les années d'entraînement sont vraiment ils ont les trois disciplines triathlon et tout moi j'étais allé voir un club de triathlon début de la saison qui faisait il y avait des gamins qui commencent petits à apprendre tous les sports différemment et tout donc il y a cette idée de complémentarité et tout et c'est vrai que on peut imaginer que les performances vont ne faire qu'augmenter ne serait-ce que par les années d'expérience de ces jeunes donc c'est pas dit alors après il y a les études qui vont jouer hein, et peut-être qu'il y en a plein qui vont faire des doctorats aussi qui auront cette drôle d'idée de faire un doctorat qui vont faire des trucs comme ça et tout en même temps hein, on sait pas puis ceux qui vont résister combien il y en a qui vont résister qui vont tenir sur le long terme et qui vont continuer à faire du sport ça c'est des vraies questions mais c'est vrai que potentiellement les niveaux sont avec des quand on le voit. Puis on le voit dans d'autres sports, en fait, parce que c'était une réflexion qu'on s'était fait avec Raphaël Homain. On avait parlé aussi, par exemple, sur le rugby, où à une époque, un jeune qui commençait le rugby assez tard avait des chances de devenir pro, ce qui est de moins en moins le cas possible, et qu'on voit qu'en foot, c'est jamais le cas. C'est un truc qui n'existe plus. Et on peut penser que sur certains sports comme ça, quand ils ont des années d'entraînement déjà très jeunes, peut-être que dans quelques années, tu regarderas le temps des 30-34 au championnat du monde, tu dis, oh là là, c'est qui ça?
C'est sûr et certain, je le sens venir, gros comme une maison. Mais je sais pas si t'as dû suivre aussi la performance de Sam Ledlow, le français au championnat du monde Ironman, qui finit deuxième entre les deux Norvégiens, ce qui est vraiment incroyable, et il me semble qu'il a que 23 ans. Donc en fait, on dit souvent les sports d'endurance, on commence à être vraiment bien vers 30-35 parce que on a accumulé du kilomètre et du kilomètre. Mais s'ils arrivent déjà à faire ces perfs-là à 23 ans, qu'est-ce que ça va être quelques années plus tard où ils seront censés être encore meilleurs s'ils continuent à s'entraîner comme ça? Ouais, ça rejoint ce que tu dis.
Alors, il y a quand même une question, tu vois, parce que c'est un peu mathématique du moment, un peu le... Il n'y a pas un moment Alors, d'une part, où tu te dis, je vais pas y arriver, j'en ai marre, c'est trop dur, je suis dans la galère et tout. Il n'y a pas un moment où tu te dis, je vais jamais y arriver.
Moi, personnellement?
Ouais.
Bon. Alors, non, pas. En tout cas, pas pour le moment. Je me suis. Non, pas pour le moment. Après, ça dépend de la question. Si c'est pour tout de suite, non. Pour l'instant, je ne vois pas trop. Si tu me poses la question sur est-ce que tu auras une limite à un moment, oui, je pense que dépasser les 40, voire maintenant les 45, parce qu'on voit des gens à 40 ans toujours améliorer leur performance. Du coup, là, oui, effectivement, il y aura une limite un jour ou l'autre, clairement. Mais j'ai l'impression que plus on voit des athlètes. Qui montent en âge et qui réussissent à performer et battent leur record à 45 ans, plus on se dit, en fait, j'ai encore beaucoup de temps devant moi et ça, c'est cool et je peux continuer à progresser encore. Moi, je disais, j'ai 32, je me vois bien progresser encore 10 ans. Quoi.
Mais c'est une belle question, c'est vrai, hein, parce que est-ce qu'on peut encore progresser, à quel âge on peut progresser? Alors, moi, j'ai lu un livre sur l'entraînement master qui montre que de toute façon, quand tu vas progresser, alors tu ne progresses pas sur les mêmes choses, tu as des limites physiologiques qui se modifient, etc. Mais là, avec les algorithmes que tu développes, dans ta startup, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir optimiser tout ça.
C'est ça, ouais, exactement. En vrai, en tout ce qui est du coup sciences du sport, il y a énormément de recherches qui sont faites en ce moment, plein de choses qui sont améliorées. Et du coup, en vrai, oui, je pense que on n'est pas à l'abri que les gens performent vraiment vraiment sur le long terme jusqu'à très tard, ouais. Je sais que je connais dans mon ancien club d'athlétisme, du coup, quand j'étais au lycée, il y avait Benoît Nicolas, je ne sais pas si ça te parle, qui est devenu du coup champion du monde là, de duathlon, je crois que c'était il y a 3 ans, il avait 41 ans, 40 ou 41 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a quand je vois Kipchoge qui a plus de 37 ans, qui continue de battre des records du monde sur marathon, j'ai l'impression que ouais, à chaque fois, les limites sont un peu repoussées. Que ce soit la limite de performance, mais la limite dans l'âge aussi. Et que ça, c'est peut-être pas que grâce, mais en partie dû aux recherches en sciences du sport qui permettent de mieux comprendre la physiologie, mieux comprendre plein de choses. Et du coup, on adapte l'entraînement par rapport à ces découvertes. Et ça permet, je pense, d'avoir des gens encore plus performants et encore sur un espace-temps qui est encore plus long. Quoi.
Ouais, et puis Kipchoge, c'est vrai qu'il a une longévité qui est extraordinaire, hein, parce qu'il commence très jeune, il arrive à se maintenir, il a connu toutes les distances sur tous les terrains, hein, quasiment, à part le trail, mais il a fait du cross, il était champion dans tous les trucs où il a touché. L'autre jour, je l'ai vu, tiens, en train de faire du home trainer, sur une photo sur Instagram, et j'ai vu qu'il faisait du home trainer, j'avais jamais vu ça, en fait, c'est la première fois que je vois une photo. Je me dis, tiens, il fait du home trainer. Alors, je ne l'ai pas vu nager, hein. Attention, c'est quand tu changes de catégorie. Je ne suis pas sûr que tu le retrouves, mais.
Ce serait énorme.
Je pense que l'entraînement croisé, bon, après, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de sponsors dans la course à pied parce que c'est son premier sport. Mais effectivement, l'autre jour, j'ai vu des photos où il le montrait sur un home trainer, donc où l'entraînement croisé doit un peu exister, en tout cas sur une bonne partie, ou en tout cas, je pense que lui réfléchit beaucoup aussi, parce que les athlètes réfléchissent de plus en plus à comment optimiser tous les éléments, on parle beaucoup de nutrition, on parle beaucoup de sciences de l'entraînement, on parle beaucoup aussi de mental, capacité mentale à ce qu'on peut développer. Bien sûr, il y a le matériel, et bon, dans le triathlon, vous êtes quand même des geeks, quoi. C'est les triathlètes inventent tous les trucs qui arrivent un jour après dans sur la route classique, et on pense au fameux guidon triathlète, hein, qui était quand même emblématique quand il est arrivé, et Greg LeMond a gagné un Tour de France avec ça quand même, mais qui était emblématique des trouvailles des triathlètes pour se dire on va faire passer un truc, on va tenter un nouveau truc, peut-être parce que sur le plan les règles permettent peut-être probablement plus, même s'il y a des règles très très codifiées d'ailleurs. Des fois, je vois les temps de pénalité que vous prenez sur les Ironman pour des petites secondes, vous vous retrouvez à attendre sous la petite tente parce que vous avez pris une minute de pénalité en ayant dépassé une ligne ou je sais pas quoi. Je dis, putain, là, c'est tatillon quand même dans l'histoire. Mais il y a quand même, je trouve, dans la philosophie du triathlon, il y a quand même une recherche de des petites améliorations qui est vraiment tout le temps et qu'on voit après passer dans d'autres sports. Même sur les vélos, on pourrait parler sur les équipements des vélos, sur tout un tas de trucs. C'est vrai que vous avez il y a ce sens-là. Alors après, ça fait monter les prix, ça, je suis d'accord.
Plus de performance, ouais. Non, complètement. Et et c'est d'ailleurs très vrai. Nous, En fait, il se trouve qu'il n'y a pas de règlement pour les vélos en triathlon. ou très peu. C'est les seuls règlements qu'il pourrait y avoir, c'est par exemple à Hawaï, il n'y a pas le droit de roue pleine parce qu'il y a beaucoup de vent, mais c'est un des seuls règlements qu'il y a par rapport au vélo. Sinon, c'est un peu genre free, quoi. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on voit en triathlon des vélos un peu des fois avec des formes vraiment super bizarres et tout. Mmh. Et je sais que par contre, en cyclisme, il y a l'UCI qui impose vraiment des règlements très, très, très stricts. Et c'est pour ça que les vélos sont un peu plus standards et qui ça les limite quelque part dans la performance, mais ça les met aussi à égalité. Triathlon, ouais. Des fois, on dit c'est peut-être cette technologie qui a peut-être un peu trop aidé cette personne à gagner. Donc là, typiquement, à Kona, je sais que j'ai vu les deux Français, en tout cas, j'ai vu qu'ils avaient, du coup, la roue pleine était interdite. Bah, du coup, ils avaient des roues quasi pleines avec juste le petit rond en milieu qui était pas plein. Et du coup, ça faisait que c'était pas une roue pleine. Et ils ont le droit de rouler avec ça. Quoi. Donc, ouais, à chaque fois, ils vont chercher un truc de faire à diff.
Il y a un truc qui est intéressant, c'est se rappeler quand même que c'est sur le vélo de route, il y a une limite qui est le poids du vélo, qui est de 6,8 kg ou 6,7 kg. Mais que les fabricants savent faire des vélos qui sont plus légers que ça. Parce que j'ai travaillé pour un fabricant de vélo en conseil, et sur la balance, le vélo était plus léger que ça. Et alors, ce truc qu'ils disaient au papy qui achetait ces vélos-là, il leur disait, attention, on pourrait pas faire de course avec. Parce que, en tout cas, l'UCI va vous plafonner. Mais ouais. Là où cette limite de poids ne doit pas exister dans le triathlon, j'imagine, et ce qui explique aussi, ces grammes qui gagnent sur les vélos, de poids gagné sur le vélo, c'est, le patron du magasin avait un mot du style, c'était 10 grammes 100 euros de plus, ou une espèce de formule un petit peu comme ça qui était calculée, mais qui des fois qui était bien bien supérieure à ça. Mais c'est vrai que la technologie, parce qu'on parle beaucoup du carbone dans les chaussures, j'imagine, je sais pas, tu cours avec des carbones toi sur la course?
Je cours avec des carbones, ouais.
Mais on en parle beaucoup du carbone sur la course à pied, ouais. Mais le carbone, pour ceux qui font du vélo, ça fait tellement longtemps que le carbone est sur les vélos, il est rentré dans cette technologie-là et tout, que forcément, et puis on parle pas des roues, du prix des roues carbone, etc. Il y a tout un tas de systèmes. Ceux qui s'intéressent un peu au vélo, qui sont un peu geeks, moi je dis les geeks, ils devraient s'intéresser au vélo parce que quand ils verraient les transmissions électroniques, tous ces petits bijoux, programmes avec les USB, tu dis, c'est celui qui est geek.
C'est ça. Ouais. Hein, bah ouais, c'est ça en fait, ouais. Bah alors que course à pied, finalement, c'est assez simple, quoi. Maintenant c'est devenu carbone versus pas carbone, mais vélo, clairement, c'est même compliqué, hein, des fois, parce que du coup triathlon, ça fait trois sports. Faut, quand on achète son matériel, c'est aussi un peu des casse-têtes, parce qu'il faut toujours trouver le meilleur ratio, enfin l'argent, qu'est-ce qu'on a comme argent, mais et quel matériel on veut pour améliorer sa performance. Parce que les pros, finalement, les sponsors leur mettent à disposition les meilleurs trucs. Nous, en amateur, c'est un calcul aussi. Si on veut faire un bon classement, il faut qu'on ait du matériel pas trop dégueu. Et il faut du coup calculer ce ratio qui est le gain, gain performance / prix. Et à ce jeu-là, ouais, je sais que le vélo, autant en course à pied, comme je disais, c'est assez simple. Natation, ça va à peu près aussi. Mais alors, même si au niveau des combis et tout, on peut trouver plein de combis de natation, je veux dire, on peut trouver plein de choses d'une combi à l'autre qui peuvent rendre ou non plus performante telle combi, mais le vélo, c'est particulièrement hard.
Ouais, puis tu vois, en natation, ils sont en train de vous trouver un nouveau truc. Des lunettes avec des petits écrans qui sont à l'intérieur, là. Ils vont faire. Et je pense qu'en plus, un jour, ils vont mettre un GPS dessus. Alors, ils vont vous vendre ça cher en disant tourne à droite, tourne à gauche, attention, il y a la bouée, pour éviter de lui mettre trop la tête.
Réalité augmentée. Ouais.
Ils tireront même les positions des classements. Attention, t'as le mec à droite, là, il attend le truc, t'as même plus besoin de lever la tête. Mais c'est vrai, en fait, je dis ça parce que j'ai des pubs sur mon Instagram et j'en ai parlé avec l'invité d'épisode précédent. On disait qu'il y avait justement des lunettes et sur ça, où il y a des petits écrans dedans qui donnent la distance, etc. Quand on va arriver là-dedans, après, on peut imaginer plein de choses. Et pour ça, sans blaguer, je disais la direction. Pour ceux qui le savent pas, il y a aussi des chaussures qui ont des semelles vibrantes qui tournent à droite, tournent à gauche, si ça vous amuse. Je sais pas où c'en est, hein, mais certains derniers startups ont inventé ça, parce que c'est le propre des startups d'inventer des trucs en disant bah tiens, ça peut être un truc intéressant, une piste intéressante à explorer. Le rendre indispensable, et ça c'est le patron de startup qui dit ça, hein, toutes les startups sont pas devenues indispensables. C'est le principe même des startups de tester plein de choses, hein, en tout cas. Tiens, on va finir là-dessus. Un petit mot, toi, tu l'as dit brièvement, mais finalement vous faites quoi vous dans votre startup?
Alors du coup, on développe une application de coaching numérique qui va permettre de proposer des plans d'entraînement individualisés aux utilisateurs. Donc pour l'instant, on est focalisé sur la course à pied. C'est pour les utilisateurs qui vont chercher à préparer un 5 km jusqu'au marathon, donc 5, 10, semi-marathon. Et le but de l'individualisation, ça va être, enfin en tout cas, les gros axes principaux, ça va être d'adapter au niveau de performance de l'utilisateur. Donc jour après jour, on va proposer des séances qui vont être vraiment adaptées, avec des allures qui seront vraiment adaptées à leur niveau, un volume hebdomadaire par séance qui sera vraiment adapté à leur niveau, etc. Donc ça, c'est l'adaptation au niveau de performance. C'est adapté à leur emploi du temps. Donc ça, contrairement à un plan papier, ça va être vraiment flexible. La personne, si à tout moment il y a un meeting qui se rajoute, elle peut finalement pas s'entraîner. Ben en gros, elle va demander un recalcul de plan au milieu de semaine et ça va lui calculer un plan qui va lui permettre de continuer à progresser de manière optimale jusqu'à son objectif sans rien casser dans la dynamique. On adapte aussi à la fatigue de la personne et aussi on propose, ça c'est un peu plus gadget, mais c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est on propose beaucoup de séances variées, beaucoup de variétés dans les séances en tout cas. C'est un des gros points forts. Donc il y a beaucoup de fractionnés, beaucoup de types de séances fractionnées. Et du coup, on veut se rapprocher au maximum de. Et d'ailleurs, là, je pense qu'on est à peu près arrivé à là. C'est de proposer ce qu'un coach proposerait, un coach personnel pourrait proposer à ses athlètes. Donc en termes d'individualisation et tout. Il y a. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Là, on est en train de la mettre sur les stores, donc pour savoir où on en est. Du coup, là, on est en train de voir avec Apple, justement, pile poil cette semaine pour que ce soit bientôt disponible sur les stores. Donc, on espère pour début janvier. Quoi.
D'accord. On l'a dit, ça s'appelle Fleet Sport, c'est ça?
Alors, du coup, l'entreprise s'appelle Fleet Sport et l'application s'appellera Fleet Run.
Fleet Run. Et est-ce que Fleet Run, tu crois qu'elle sera capable de me faire gagner, me retrouver mes 3 points de VMA perdus un jour depuis mes opérations au genou?
Bah oui, en vrai, complètement. En tout cas, elle sera à relever le challenge, ouais, complètement.
D'accord. Tu sais quoi? Alors là, moi, alors, je veux bien prendre le défi. parce que c'est mon gros objectif de 2023. Parce que, on me dit, c'est quoi ton objectif en 2023 et tout? J'ai dit, je sais pas. J'ai gagné un dossard l'autre jour, quand même. J'ai eu en tête une autre dossard, mais j'ai dit, il faut que je retrouve ma vitesse que j'ai perdue quand j'étais opéré du genou. Puis j'ai fait de l'ultra, moi. Au lieu de faire des trucs rapides comme toi, moi, j'ai fait un 24 heures, j'ai fait un 496 challenge, je cours tous les jours, mais à petite vitesse. Et un jour, je me suis dit, il faut quand même que je retrouve ma vitesse. Ouais, alors, si jamais, ton application FleetRun est capable de me faire retrouver ma vitesse, je me dirais, elle aura été efficace, en tout cas pour me motiver à faire les entraînements qui sont nécessaires, à arriver à organiser les choses, parce que c'est entre l'objectif de dire je veux aller faire les championnats du monde, comme tu avais dit, et puis arriver à les faire, il y a beaucoup d'entraînements, beaucoup de pratiques, de l'organisation. On a parlé un petit peu de tous ces sujets-là, et c'est vrai que c'est intéressant de le pointer, parce que on l'a dit, hein, t'as commencé un doctorat, t'es fondateur d'une entreprise, on peut pas dire t'es pas pro, quoi, t'étais dans la catégorie amateur, pourtant ça t'a pas empêché de réaliser ton rêve, hein, et même si t'es pas champion du monde, t'es quand même champion du monde de ton monde, tu sais, comme on dit sur le podcast.
Oui.
Parce que bien entendu, on n'a pas tous les mêmes capacités de départ, les mêmes temps d'entraînement possible, tout ce qu'on peut faire, etc. Mais en tout cas, le fait de se dire un jour je vais le faire, je vais tenter de le faire et d'y arriver. Moi, je te dis chapeau, tu vois, parce que c'est vraiment aussi, parce que c'est un projet, c'est long quand même comme projet, en fait, entre le moment où tu te dis j'ai l'idée et le moment où j'y arrive. C'est pas un truc en disant allez, dans 10 semaines, je fais un marathon, quoi. Là, ça, c'est un projet long terme, quoi.
Complètement, ouais. Complètement, ça a été des années assez compliquées, assez dures. Assez dures, mais en même temps, le challenge, je sais pas, ça nourrit aussi. Pas mal de choses, donc moi je le vois pas du tout comme quelque chose de négatif et je suis vraiment content d'être allé au bout de mes projets. Donc là, en gros, ouais, quelque part après le très long, je me suis dit dans ma tête, bon, c'est cool, là, en l'espace de quelques années, je suis allé au bout de mon doctorat, au bout de ma compétition avec le championnat du monde. Et là, aujourd'hui, bah, on arrive, enfin, je dirais pas qu'on est au bout de la start-up, mais si on arrive à lancer notre produit en janvier, ça fera quand que je serai allé aussi au bout, au moins j'aurai sorti le produit. Après, on verra ce qui se passe au niveau de la start-up. Hein. Mais voilà, et j'aurais donné le meilleur, je pense, de moi-même. Et c'est aussi ça qui est intéressant du coup, ce que tu disais juste avant par rapport à, ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à l'application, c'est que dans beaucoup d'applications de plans d'entraînement un peu fait sur mesure, on demande à la personne qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc souvent, on lui demande, tu veux faire un 10 km, ok, en combien de temps tu veux le faire? Et là, après, ça sort un plan en fonction du temps que la personne souhaite faire. Et nous, ce qui est d'intéressant, et je pense que c'était la philosophie qu'on voulait mettre en place derrière l'app, c'était en fait emmener la personne vers le meilleur d'elle-même. Et c'est quand quelqu'un me demande, mais à quel moment il me pose la question de combien de temps je vais faire, je dis non, nous, on ne pose pas la question, c'est juste on va t'emmener vers le meilleur de toi-même par rapport au nombre d'entraînements que tu pourras mettre par semaine, par rapport à ce que tu feras semaine après semaine et à ton niveau de performance de départ. Et avec ces trois choses-là, en fait, on t'envoie semaine après semaine vers le meilleur potentiel. Et c'est, eh ben, c'est un peu ce que nous, moi, j'ai adopté en tout cas ces dernières années. Enfin, j'ai pas un gros objectif fixe, mais j'essaie de donner le meilleur. Désolé. Ouais.
Eh bien, écoute, c'est une belle philosophie. Ça donne envie de tenter. Et alors là, franchement, ton petit discours à la fin, là, et tout, il est nickel. ça donne envie de tester, en tout cas, de découvrir, parce que chacun d'entre nous, on a envie de devenir un peu meilleur, d'améliorer, etc. Après, chacun son niveau, son temps. Ce que j'appelle aussi nos handicaps, hein, entre le travail, entre les moyens, entre le temps, entre comment son métier est organisé. Parce que, il y en a qui ont de la flexibilité, d'autres qui n'ont pas de flexibilité. Il y en a qui travaillent de jour, de nuit, qui ont des travail physique, il y a tout un tas de paramètres, mais le fait de se dire on va essayer d'optimiser, de gagner un petit peu, de jouer sur notre fibre compétitive, je pense que c'est un truc qui parle à tout le monde. Bien entendu, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors, je sais pas s'il y a un site déjà pour l'appli ou pour, si, pour toi.
Ouais,
alors,
on a un site web, on a un site web. Pour l'appli, bah, comme je disais, elle sera sur les stores bientôt. Pour le moment, il y a un lien sur le site web qui ramène vers une web app. Donc c'est un peu une web app qu'on a utilisée en bêta test, qu'on ne fait pas payer pour le moment, mais qui est déjà accessible pour qui voudrait tester avant que l'app sorte officiellement sur les stores. Donc pour l'instant, on n'a pas fait de com, mais on le fera quand elle sera sur les stores. Et bien sûr, oui, du coup, je peux te donner les deux liens. Le lien du site web et le lien de la web app pour ceux qui veulent tester déjà ça avant janvier, quoi.
Ça marche. Eh ben écoute, tu sais quoi, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens, hop, vous allez voir dans la description de l'épisode, vous cliquez sur le lien, comme ça vous pourrez voir. Et puis, alors, je sais pas si toi personnellement t'as un compte Instagram. Alors, j'ai ton profil LinkedIn sous les yeux, mais je sais pas s'il y a des gens qui sont un peu curieux, qui voudraient discuter avec toi, qui voudraient te demander des conseils. On peut te contacter quelque part.
Non, ouais, sur Instagram, c'est parfait, ouais. C'est parfait, c'est le réseau que j'utilise le plus, donc je peux t'envoyer aussi direct suite à cette discussion le lien vers mon Insta.
Et ben voilà, ça vous fait une raison de plus de regarder les notes de la description, les notes de l'épisode, vous regardez bien. Et puis, je veux dire, attends, j'en profite, parce que toi qui vas être dans les stores, tu vas demander ça bientôt. Tant que vous êtes dans la description de l'épisode, si vous êtes sur Apple Podcasts et Spotify, vous regardez, il y a 5 étoiles marquées quelque part, vous donnez un avis, vous appuyez le bouton 5 étoiles. Comme ça, c'est fait. Je vous remercie d'avance. Et on diffuse cet épisode juste avant Noël, hein, quelques jours avant Noël. Donc, si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, d'un coup, je prends bien le vélo si vous avez un petit peu de sous, mais si vous me donnez une note 5 étoiles, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir à tous les podcasteurs. Non, mais attends, écoute, tu sais ce que c'est, faut prendre un peu sa cam. En tout cas, Aurélien, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi. On a un petit peu débordé sur le plan qu'on avait prévu. J'espère que t'as pas une grosse sortie vélo, entraînement ou quoi que ce soit à faire derrière.
Elle était un peu plus tard, donc parfait. Ouais. Bah, là, on nickel. Est toujours dans les temps, donc c'est ce qu'il fallait.
Eh ben écoute, on va plier comme ça. Je te remercie en tout cas beaucoup pour nous avoir raconté cette aventure, l'entraînement, les préparations, etc. Je te souhaite une belle continuation et le meilleur, hein, pour la suite. Que ce soit toi personnellement et puis bien sûr pour l'entreprise.
Bah parfait, merci beaucoup pour tout ça et merci à toi de m'avoir accueilli. Bon courage et on se tient au courant pour une fois que tu auras testé l'app FleetRun. Je serais curieux d'avoir tes retours, monsieur.
Ouais, on fera un retour pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, en fait, je n'en sais rien du tout. Peut-être que ce sera moi tout seul d'ailleurs, peut-être pour le dernier de la saison, on verra bien, le dernier de l'année, c'est peut-être mon bilan de l'année, des choses comme ça. J'ai même réservé ce truc-là un petit peu. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toi Aurélien aussi des belles fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux pour l'année qui vient et puis si le Père Noël vous lui demandez un petit dossard ou je sais pas quoi, j'espère qu'il vous le mettra sous le sapin. Le nombre de dossards qui vont être déposés sous les sapins cette année, je vous le garantis, je sais pas s'il y en aura pour de l'Ironman, du half ou du triathlon, mais je pense quand même que les gens vont être gâtés. À bientôt.
Parfait.
Très bonne journée. Yes. Ciao ciao,
merci à toi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.